Salut mes petits vampires et bienvenue dans The Marvel Initiative. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc j'ai du mal. Le podcast où on parle de tous les films Marvel, même ceux avec des orgies dans le sang. Je suis Sofiane, avec moi comme toujours Zolt l'Empaleur.
Ah bah pas mal, ok.
et Maxi contre les vampires.
Yes. Ah bah celui-là, je l'attendais la ref à Buffy. Ouais.
Forcément. Et pour nous rejoindre dans notre premier podcast sur un film d'horreur, Judith, alias la Demoiselle d'Horreur, se joint à nous. Bienvenue Judith.
Merci, salut et merci beaucoup de l'invitation.
Ouais, profite parce que tu n'as pas encore de surnom. Hein. À partir du 2, tu vas avoir un surnom.
Donc toi, tu es spécialisée dans l'horreur, forcément.
Oui.
Tu avais déjà vu Blade avant ?
Ben non, enfin justement, c'était une de mes grosses lacunes. C'est un film qui m'avait jamais beaucoup attiré jusque-là. Et puis bah, quand Zoltan m'a proposé, je me suis dit que c'était le moment. Donc écoute, c'est tout frais d'hier, mon visionnage.
Est-ce que pour toi, c'est un film d'horreur ?
Pas vraiment. Pour moi, c'est de l'horreur fantastique, de l'action fantastique plutôt. Après, l'horreur, c'est vrai que c'est extrêmement vaste. Il y a beaucoup d'éléments horrifiques, donc je suis pas choquée qu'on en parle dans une thématique film d'horreur, quoi. Après, voilà, c'est pas de l'horreur pure.
Ouais, parce que nous, quand on a commencé à faire des films de super-héros, on s'est jamais dit qu'on ferait Blade un jour. Là, on y est, et ça a quand même rien à voir dans le style avec les autres films qu'on a fait avant, quoi.
Ah bah, c'est quand tu même... t'imagines qu'ils vont reprendre le perso pour le MCU, tu fais j'attends de voir.
Ouais.
C'est quand même pas trop la vibe MCU qu'on vient de voir là.
Je pense que c'est un bon entre-deux, parce que tu vois, moi, de ma vision de personne qui consomme d'habitude plus de l'horreur, franchement horreur, j'avais justement plus l'impression de voir un film de super-héros, tu vois, et vous, c'est le contraire, donc c'est assez marrant comme équilibre.
Ah ouais.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs de super-héros qui reviennent dans le film quand même. Hein. C'est...
Ouais.
Ça reste là, quoi. Le truc avec les trois actes, le grand boss final, tous ces trucs-là, c'est pas film d'horreur, quoi. Donc cette semaine, si vous l'avez pas compris, on va parler de Blade, le film de 1998 avec Wesley Snipes qui casse des gueules.
Ouais. Qui plante des gueules plutôt.
Des gueules. Donc Blade existe depuis 1973 dans les comics Marvel et on oublie souvent qu'il y a des vampires dans l'univers Marvel.
Ouais, bah c'est vrai que par exemple le MCU on n'a jamais fait mention, mais il y a Mobius aussi, un gros personnage.
Morbius.
Mobius.
Et donc vous pensez que ça va être amené comment dans le MCU tout ça?
Franchement, c'est improbable. J'ai aucune idée de comment Blade peut être introduit de manière harmonieuse dans cet univers. Autant les X-Men, il y a plein de manières de faire, les 4 Fantastiques aussi, mais alors Blade, aucune idée, moi.
Ouais, je me demande s'ils vont pas se mettre à faire des one-shots qui sont pas liés à l'univers.
Un peu plus détaché, mais je pense qu'ils vont la jouer un peu plus fun que ce qu'on a pour aujourd'hui, quoi.
Donc le film est en production depuis 92 et c'était LL Cool J qui devait jouer le rôle. Ça nous replace bien dans le temps.
Ah oui, putain, ouais, c'est clair. Ouais.
Et New Line récupère le projet et veut faire une sorte de parodie jusqu'à ce que David S. Goyer, donc notre ami, hein, on a parlé de lui pas mal de fois dans le podcast.
Ouais, c'est un peu monsieur film de comic book, hein, franchement. Je pense que c'est celui qu'on a scénarisé le plus.
On a fait combien de films avec David S. Goyer
On approche la dizaine, non?
On doit pas en être loin des 10, ouais.
Ah, quand même?
Ah bah, il y a déjà 2 Batman sur 3, je crois. Ou 3 même, 2 ou 3. Enfin, les 3 de Nolan, c'est lui. Il a fait Superman Returns, il est dedans. Il a fait BVS aussi.
Green Lantern. Man of Steel.
Man of Steel, c'est ça, ouais. Et peut-être Daredevil aussi, c'est pas lui? Enfin...
Je sais plus ça.
Il en a fait tellement, quoi.
Donc c'est lui qui est arrivé et qui a dit non, faut faire un truc sérieux, on va pas faire une parodie. Parce qu'il y a un moment où les producteurs ont demandé est-ce que Blade peut être blanc.
Yes.
Yes. Ouais. Est-ce que Blade peut être un tigre?
Est-ce que Blade peut être une araignée géante à la fin du film?
Exactement. Produit par le producteur de Mac.
David Fincher a un peu participé au scénario du film, il faut le savoir.
Et il devait réaliser. Hein,
pendant... Et il devait réaliser, et au final, ça ne s'est pas fait.
Non, on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait.
On aurait pu vivre dans un monde où Blade aurait été réalisé par David Fincher, et ça aurait quand même eu de la gueule, je pense.
Ah là, ouais.
Ah oui, oui.
Période Seven, en plus.
Ouais, voilà. C'était entre Seven et Fight Club, je crois. Ça doit se jouer.
Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Mais tu sens qu'il y a quand même, enfin, mine de rien, tu peux voir l'influence de Fincher un peu dans cette espèce de monde souterrain un peu glauque qu'il a cultivé dans ces deux autres films, justement, Seven et Fight Club. Donc, je trouve pas ça improbable qu'il ait été à un moment associé à ce film.
Et à la place, on a notre pote dont on a parlé il y a peu sur Patreon dans l'épisode sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Stephen Norrington. Donc, qui a plus ou moins fait ses deux films et ensuite il a disparu.
Ah ouais, la carrière famélique. J'ai regardé, il a quatre films crédités, dont deux Inconnus au bataillon et Blade et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
C'est hallucinant. Quel parce CV. Que ce film a bien marché, donc on pourrait se dire qu'il aurait quand même pu avoir un début de carrière. Mais non, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires a complètement bousillé sa carrière à vie. Quoi. C'est...
Ouais, je pense que le mec a juste, il s'est rendu compte qu'en fait il avait pas envie de faire ce métier. Quoi. Enfin, c'est. Ça peut pas être autrement.
Et puis de ce que j'ai lu, je crois que les deux films qu'il a fait, c'était deux mauvaises expériences en termes de relations avec les studios. Donc ça a dû un peu le dégoûter de
ouais,
ce film.
Voilà, ouais, il a dû se dire c'est pas pour moi. Quoi.
Si je vous dis pour jouer Blade dans les années 90, trois acteurs, vous me dites quoi?
Denzel Washington.
Burn.
Voilà, bah vous avez eu les deux plus Wesley yes. Snipes. Vous avez eu les deux directs plus Wesley Snipes. Donc voilà, les trois choix, c'était Denzel, Lawrence et Wesley. Les mecs tellement cool qu'on peut dire juste leur prénom et on sait de qui on parle. Et Wesley Snipes, c'était le choix de David Goyer. À savoir que Wesley Snipes avait essayé de monter un projet Black Panther pendant super longtemps. Et ça ne s'était pas fait. Et ensuite, il a accepté Blade. Donc, quand même, le projet Black Panther, il date des années 90 aussi. Quoi.
Mmh, ouais, bah, ça lui a donné l'occasion de faire du karaté un peu, Blade, mine de rien.
Ouais,
c'est un grand fan d'arts martiaux. Et...
Ouais, ça pour le coup, tu sens que c'est le mec qui fait la plupart de
ses combats,
ses stunts et tout. Ouais. Jet Li a refusé le rôle de Frost pour faire L'Arme Fatale 4. Je l'ai noté juste pour faire plaisir à Zoltan parce que je sais qu'il adore L'Arme Fatale.
Ouais, mais j'ai vu cette info et je me suis dit que je sais pas dans quel film j'aurais préféré, mais en tout cas, L'Arme Fatale, c'est de la merde.
Et puis bon, il y avait Stan Lee qui est pas dans le film. Je sais pas si vous avez parlé.
Oui,
si vous avez...
ouais, il devait avoir un caméo, c'est vrai. Il devait jouer
coupé
un film.
Coupé au montage, Stan Lee.
Donc c'était le premier caméo Marvel, quoi, théoriquement.
Bah oui.
Alors, avant ça, c'est quoi les films Marvel
bah, c'est Ward. Hein.
Ward, et il y a les 4 Fantastiques de 95.
On n'en parle pas de tout ça.
Et Captain America, dont on n'a jamais parlé non plus. Voilà.
Donc la première cut du film faisait 2h30, et à la fin, Frost se transformait en monstre de CGI fait de sang. Et apparemment, c'est les vampires qui gagnaient à la fin.
Ouais, ça lançait une suite dans un monde post-apocalyptique où Blade allait de nid en nid défoncer les vampires. Ouais.
Et Morbius devait apparaître à la toute fin du film.
Mais alors apparemment, il apparaît. Hein. Enfin, je veux dire, t'as l'image où il apparaît, quoi.
La scène est sur YouTube, si vous voulez la chercher.
Ouais, la scène est sur YouTube, exactement.
Et c'était d'ailleurs Norrington qui le jouait.
Mais on s'en foutait déjà à l'époque de Morbius. On s'en fout encore plus maintenant. Hein, tu vois,
c'est... Ouais, l'histoire de droit, hein, c'est pour ça.
Il sort quand, Morbius?
Bah, 2021, logiquement. Hein. Dans un monde où les salles de cinéma rouvriront.
Ouais, c'est ça.
J'espère que l'époque... J'espère qu'il n'y aura plus jamais de podcast, comme ça on n'aura pas à en parler. Le budget, 45 millions et un petit 130 millions au box-office, c'est pas dégueu. Voilà.
Pour l'époque, c'est pas mal. Hein. On n'était pas à une époque où... Enfin,
c'est pas mal du tout.
Le premier film de super-héros de l'ère moderne, en fait. Post-Batman, post-échec Batman, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que... C'est un an après Batman et Robin, donc c'est un peu le premier film de super-héros. Mais j'ai du mal à le considérer comme un film de super-héros aussi en soi, quoi.
Bah, quand même, mais bon.
Ouais, mais dans la tête des gens, Blade, c'est pas forcément un super-héros.
Non, c'est clair.
C'est un chasseur de vampires. Ouais. Voilà, ouais. C'est comme Van Helsing, quoi, tu vois, c'est pas pareil.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait des bons films de chasseurs de vampires à l'époque, quoi. C'est un genre qu'on n'a plus du tout, hein. Mais la même année, je crois qu'il y a
Van Helsing, c'était pas très bon, par contre.
Ah, moi, j'aime bien Van Helsing. Ouais. Mais,
mon Dieu.
Mais non, mais c'était l'année où Vampire de Carpenter est sorti aussi, là, exactement la même année.
Donc, ouais, il y a eu Dracula de Coppola quelques années avant. Ouais. Il y a eu Entretien avec un vampire. Il y avait des bons films sur les vampires à l'époque.
Il y avait Lost Boys aussi, de Lost Boys.
Et ensuite, il y a eu Twilight, et après, ouais. Plus rien.
Et Frontière de l'Aube, ou la Frontière de l'Aube, le film de Catherine Bigelow aussi. Avec des
vampires. Oui, c'est ça.
C'était un peu une époque, pour les fans de films vampiriques, il y avait de quoi se mettre sous la dent.
On passe au film
Ouais, attends, j'avais un truc à dire, mais vu que je l'ai oublié, on passe au film.
Bah, merci Zoltan, c'était super comme introduction.
C'est... Genre, ce genre d'intervention.
Ouais,
c'est...
franchement.
Ce qui fait ma marque
c'est pour ça que je te donne 50% du Patreon.
C'est pour ça. je mérite totalement mon revenu sur ce genre d'intervention.
Allez, on passe au film. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Nous sommes en 1967, la maman de Blade accouche après avoir été mordue par un vampire et ça veut dire que son fils sera une moitié de vampire. J'aime bien le concept. Je trouve ça très. Ça a déjà été fait avant ou c'est vraiment Blade qui a inventé l'idée de.
Non, normalement, elle. Alors, normalement, l'histoire, c'est ça. Hein. L'histoire, c'est elle se fait mordre par Frost et elle crève. Par contre, en fait, sa mère, dans la vraie histoire du comic, c'est une prostituée. Et elle meurt, comme on le voit dans le film, il n'y a pas la révélation qu'on aura plus tard. Et Blade, pour le coup, bah, il est mi-homme, mi-vampire grâce au fait d'être né dans une femme qui s'était fait mordre.
Non, mais là, je me tourne plus vers la spécialiste des films d'horreur. Est-ce qu'il y a déjà eu un concept similaire dans les films d'horreur? C'est ça que je voudrais savoir.
Avant Blade, ça ne me dit rien. Je crois
c'est un
pas.
Bon concept, hein, enfin, quand on y pense comme ça.
Oui, oui.
Ouais.
Oui, c'est peut-être un peu classique le truc genre ouais, je suis mi-gentil, mi-méchant un peu. Ça c'est je pense que c'est une formule qu'on a beaucoup vue pour le coup dans les films d'action pour le coup. Après en vampire spécifiquement, ça me dit rien à part Blade.
Ouais, moi, parce qu'après il y avait par exemple bah, dans Buffy les vampires avec une qui ont leur âme et donc ils sont gentils mais en même temps ils restent vampires. Mais le côté mi-humain, mi-vampire, j'avais pas forcément enfin c'était un truc que je crois pas l'avoir vu ailleurs.
Non, je pense pas non plus.
Ouais, mais, j'aurais peut-être une illumination plus tard, mais là, ça me dit rien. Ouais.
Et ensuite, on a une des scènes les plus cool du film, direct.
Pour te mettre dans l'ambiance. Ouais, celle-là, franchement, ouais.
C'est fuck yeah les années 90, quoi. Allez. donc, il y a un couple qui va dans un abattoir qui est en fait une boîte de nuit. Déjà, rien que ça, ça me plaît. ça me fait penser aux boîtes techno en Belgique en début 2000. Là, c'est bien spécifique ce que je viens de dire, mais je sais de quoi je parle.
Ouais, c'est vu. Sofiane des années 2000 s'en souvient.
et il pleut du sang. Ça, par contre, c'était pas comme ça en Belgique.
Hein. Ah,
je levais plus de la bière que du sang.
T'as pas été dans les bonnes soirées.
Ouais, j'ai pas été dans les bonnes soirées.
ça, Judith, elle les connaît, les soirées. Plus
voilà.
Et là, il y a Wesley qui débarque et il pue la classe hein, entre nous, Wesley Snipes, dans ce film. Hein.
Ouais, c'est clair, il y a du charisme.
Putain, il a un charisme de malade dans ce film.
Ah ouais, là, il y a tout, hein, franchement.
Là, il est génial. Dès sa première scène, t'es là, genre, ah ok, ce mec-là, il est cool, quoi.
Mais rien que le costume, quoi. Le costume, il est trop, trop stylé, je veux dire. C'est l'armure avec son long manteau noir et tout, c'est magnifique.
Est-ce que j'ai déjà raconté.
Ta rencontre avec Wesley Snipes?
Ma rencontre avec Wesley Snipes.
Non, vas-y.
Story time. J'étais un pote, on interviewait pour les Expendables 3, donc il y avait tout le casting. Donc on a fait Stallone, on a fait Statham, on a fait Banderas, comme j'en avais parlé une fois, je crois, dans le podcast. Et on finit avec Wesley Snipes, c'est un acteur qui n'était pas trop connu, je ne sais plus quel acteur c'était. Et Wesley Snipes, il nous fait un peu attendre parce qu'il est aux toilettes. Et il sort des chiottes et il nous regarde, il fait « Bah quoi, vous attendiez Will Smith ?» Rien que pour ça, j'ai fait « Ok, ouais. » Et c'était juste après qu'il sorte de prison.
Bah, c'est ça, parce que le mec est pour à cause de dettes. Hein.
Je crois ouais,
que c'est
les fraude impôts, fiscale, les fraudes fiscales, exactement. Et donc, il avait fait pas mal de temps en prison. Et Expendable 3 était son premier rôle en sortant de prison. Et donc là, il était dans un hôtel super chic de Paris et tu sentais qu'il se faisait plaisir, le mec. Quoi.
Ouais.
Tu passes de la prison à ça. Ouais, c'est quand même la vie des acteurs hollywoodiens qui font des conneries et qui se retrouvent en prison. Voilà, c'est toujours pareil.
Pour le coup, années 90, je pense que c'est sa grosse décennie. Hein. Son rôle le plus marquant, c'est le méchant dans Demolition Man, je pense.
Ah, mais génial dans Demolition Man.
Ouais, c'est vraiment, il est trop bien.
C'est un film que je conseille à tout le monde, quoi. C'est,
ouais, mais il est sur Netflix. Hein.
Il donc, est franchement fun comme film. Si tu veux un film fun, tu regardes ce film. Quoi. Et lui, dedans, il est encore une fois une question de charisme. Quoi. Il est au-dessus de tout le monde dans le film. Quoi.
Ouais, mais en plus, il a une autorisation à cabotiner dans Demolition Man qui le rend ultra savoureux. Quoi.
Ouais, c'est son Batman Forever. Quoi, tu vois.
Ah ouais, il y va.
Et donc, ouais, il brûle un mec, il tue tout le monde.
Ouais, franchement, est-ce qu'on peut. Enfin, on y arrive quand au point Matrix, Sofiane?
Bah écoute, je t'en prie, vas-y.
Bah, non, mais faut parler
de ça. Moi, je tiens à dire que déjà, l'ambiance boîte de nuit, etc., comme ça, les Wachowski, en l'occurrence surtout Lana, étaient très connus pour aller dans les boîtes de nuit dans les années 90 et ce genre de trucs. Donc, tu vois, l'esthétique années 90, latex, un peu SM sur les bords et tout, je pense que ça vient du vécu de Lana, quoi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, cette scène, c'est vrai qu'elle fait très Matrix, mais aussi elle fait très de son époque et d'un style qui était vraiment dans ce genre de boîte de nuit. C'était comme ça, quoi. Et donc, c'est vrai que le look, tout le look, les lunettes de soleil, le style et tout ça, ça vient de ce style, du cyberpunk, mais... Enfin, c'est pas vraiment du cyberpunk là pour le coup. Mais
il doit y avoir un nom en plus à ce mouvement. Mais...
J'ai envie de dire laserpunk, tu vois.
Ouais.
Donc oui, c'est clair. C'est clair que les deux ont beaucoup de choses en commun parce que.
Il y a un perso qui dit je suis l'élu déjà dans le deux films et qui porte un menton en cuir au moment où il le dit.
Mais bon, ça, Chosen One et ce genre de conneries, ça on
le sait. Non, je sais. Mais il y a du Bullet Time aussi dans les deux.
Il y a un film avec Jet Li qui s'appelait The One qui était sorti pas longtemps après.
Ouais, mais,
aussi,
mais il n'était pas The Chosen One dans The One.
Tu vois, c'était toujours. Ça revient tout le temps, l'élu, dans plein de films.
Ouais.
Regarde, Harry Potter, c'est l'élu par exemple.
Si oui, c'est vrai. Mais il y a un bullet time dans les deux films, quand même. C'est pas rien.
Il n'y a pas de bullet time. Ça, par contre, tu m'as menti.
Ah bah
j'étais, un peu déçu parce qu'il y a en effet une balle en image de synthèse qui avance.
Il y a un bullet time.
Mais il n'y a pas la caméra qui tourne au-dessus.
C'est pas ça, le bullet time.
Non,
c'est la vitesse de la balle. C'est ça l'idée, c'est que tu ralentis le temps à la vitesse de la balle.
Non, moi je vais dire un bullet time, c'est quand la caméra tourne autour. Par exemple, quand Trinity fait son coup de pied dans Matrix au tout début, c'est un bullet time.
On n'a pas le. Non, enfin, je ne suis pas d'accord avec votre définition, monsieur. Parce que
je vais appeler John Guetta qui a inventé le bullet time et je te dis ça tout de suite.
Ouais.
John, how are you? How are you, buddy?
Am I right or am I wrong? I'm right, ok. Fuck you, Zoltan. Okay.
Oui, c'est ton cousin Marvin.
Non, bon. En tout cas, il y a quand même. Voilà, je trouve que ce film a beaucoup de choses qui ressemblent un peu à Matrix dans l'esthétique, dans des idées, des trouvailles de mise en scène, dans des.
C'est comme dans. Comment il s'appelle? Dark City, c'est ça le film
de Proyas?
Qui a beaucoup aussi d'éléments qui font penser à Matrix. Nous ensuite on a eu Daredevil qui était quoi un an ou deux après Matrix.
C'était
full Matrix aussi. Enfin tu vois, tu sens que c'était un truc d'une époque quand même que Matrix a rendu cool en le faisant bien en fait, le faisant même très bien. Tu vois, alors que Blade le fait bien, mais les bullet time dans Matrix, les costumes, regarde le combat entre Neo et Morpheus, c'est quand même autre chose que les combats qu'on voit là où c'est juste des coups de poing au final la plupart du temps. À part à un moment, il y a une gamine qui fait des saltos, mais
ouais.
Je suis ok, film, d'accord.
Mais il y a le méchant qui sort un katana aussi. Je sais pas d'où il le sort, mais il le sort.
Oui. Bon. Il y a un petit jumpscare dans le film quand même.
Ah, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai eu des moments un peu effrayants, je t'avoue.
Quand le mec qui est cramé est à la morgue et Karen est en train de s'en occuper. Ça fait combien de fois qu'on a un personnage féminin qui s'appelle Karen?
Beaucoup.
En 80 films, je pense qu'on en a eu quelques-unes qui s'appellent Karen quand même.
Là, pour le coup, vous savez que Karen a failli être blanche, hein, d'ailleurs. Mais c'est Snipe qui a insisté en disant non, allez, on fait un film en hommage à la Blaxploitation, donc on va mettre des acteurs noirs dans les rôles principaux, quand même.
Bah, en plus, il y a un flashback pour montrer qu'elle lui fait penser à sa mère et tout, donc il y a quand même une logique derrière tout ça, en plus, scénaristiquement.
Ouais.
Et en plus,
dommage qu'ils
n'aient
pas tenu ça sur la suite.
Bah, pareil, quand ça, tu vois la petite gamine dans le musée, il s'inquiète pour elle, etc. Et tu vois qu'elle, c'est une afro-américaine aussi, et c'est là qu'il se fait prendre par surprise et qu'elle l'attaque. J'ai l'impression que Blade, c'est un peu son point faible.
En tout cas, c'est. De toute façon, il y a une thématique qui est abordée, mais c'est un peu ce qui me frustre avec ce film, c'est que je trouve que tu sens qu'il a des idées en tête, mais qu'il n'exploite pas du tout le côté, de jouer sur vampire et race. Il y a un truc à faire, ça le fait pas vraiment. De jouer sur le vampirisme et le sida, il aborde un peu, mais pas trop non plus. Tu vois, il y a des. Et pareil sur le côté aussi lutte de classe. Enfin, il y a des. C'est dommage, tu sens qu'il a des idées, mais qu'il ne va pas du tout au bout. Quoi.
Pour le coup, moi j'ai trouvé, parce que le vampirisme au cinéma, c'est vrai que ça a quand même, enfin, et aussi en littérature d'ailleurs, ça a quand même été quasiment toujours synonyme de métaphore sur les maladies sexuellement transmissibles, etc. Là, il y est fait très rapidement référence, histoire de dire qu'on nie pas cet héritage, mais c'est quand même vraiment pas le sujet, quoi, d'utiliser le vampirisme sous ce prisme-là.
Ouais, mais après, c'est vrai qu'un film de vampire dans les années 90, normalement, c'est dur de pas se dire, tiens, ça va parler du sida, quoi. Et bon, c'est vrai qu'il en parle. Ouais, en effet, il y a eu deux répliques qui fusent et c'est tout.
Je m'en rappelle même plus des répliques, vous pouvez me les rappeler là,
oh, c'est que... elle, Karen, qui lui dit un moment à Frost, elle lui dit, mais vous êtes rien d'autre qu'une putain de maladie sexuellement transmissible.
Ah, super.
Parce qu'il n'est pas né vampire, tu vois, qu'il a été contaminé, quoi.
Ouais,
ah, c'est très classe comme référence en plus, bravo. Mm. Il y a quand même Blade qui débarque, qui sauve Karen et il la jette par la fenêtre et ça.
Ouais. Se lancer.
J'ai explosé d'ailleurs, je fais putain, sérieusement mec.
Et ça t'a pas fait penser à Matrix encore, hein. Ce
qui
putain
saute sur un toit, j'ai levé un petit sourcil.
Merci.
J'ai fait, ouais, ok, Zoltan, je te le donne celui-là. Non, mais si tu me fais ça pendant tout le film, par contre, on est parti pour un débat qui va durer longtemps.
Non, c'est bon, je crois que j'ai épuisé toutes mes cartouches. C'est bon.
Il a une voiture. Vas-y.
Excuse-moi, non, je dis c'est des scènes là, parce qu'on parlait de la première scène au départ et ensuite de ça. C'est vrai que moi, la première moitié du film, alors qu'au départ, moi, si j'avais jamais vu ce film-là, c'est parce que ça m'attirait pas. J'avais un petit peu, enfin, honnêtement, j'avais un peu peur que ce soit assez nanardisant, quoi. Et en fait, ces premières scènes-là m'ont fait me dire. Ah ouais, en fait, c'est vraiment, c'est full années 90, on peut pas y échapper, mais par contre, ça reste vraiment fun, quoi. Je me suis dit, enfin, j'ai été vraiment agréablement surprise par cette première partie, où je me suis dit, putain, en fait, ouais, c'est très marqué par son époque, mais ça a pas suffisamment vieilli, enfin, il y a vraiment encore de quoi prendre son pied.
Bah, il y a des idées, je trouve, enfin, le mec, il se lâche, quoi. Ouais. Mais moi, je me souviens à l'époque, j'ai beaucoup regardé le DVD, et pour le coup, j'ai dû voir, mais 35 fois la première partie du film, et très, très peu la fin, en fait. Parce qu'il y a un moment où c'est vrai qu'il devient chiant.
Il y a une baisse de niveau.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Mais les 30 premières minutes, elles sont vraiment, vraiment super cool, quoi. Mm. Et la scène de boîte de nuit, je la trouve vraiment excellente. Il y a un truc où d'un coup, tu es dans un univers, c'est ultra assumé. Blade, il débarque, il est badass comme pas permis. Enfin, c'est gore, c'est glauque. Non, c'est vraiment, tu vois, le mec couvert de sang qui se retrouve à se faire malmener par tout le monde, à se faire taper par des vampires au sol. Enfin, c'est chaud. Et après, le cadavre calciné juste après et tout ça, c'est... mine de rien, ça t'accroche tout de suite, quoi. Et ça, j'aime bien quand les films de super-héros, enfin, quand les films globalement te font un démarrage ultra puissant pour te plonger dans l'univers qui est un peu particulier. Un peu comme un autre film, mais je ne le citerai pas.
Hein ?
Bah si,
maintenant. Matrix.
Non, mais parce qu'il y a beaucoup de films qu'on peut pas citer avec moi. Alors j'étais dans ma liste, j'étais en train de dire quoi ? Batman v Superman, non, il commence bien. Il a une voiture super cool, Blade. Tout son équipement est cool, franchement. Même à un moment, il fait ses propres armes avant de partir à la baston. Là, et il fait fondre de l'argent et ce genre de trucs.
Le cran de sûreté de son épée aussi, c'est quand même super.
Oui,
classe.
Le cran de sûreté de son épée, c'est super classe.
Ouais. Alors ça, pour le coup, il y a tout un bonus dans le Blu-ray que j'ai. Malheureusement, j'ai pas pu écouter les 4 commentaires audio du Blu-ray parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai regardé tous les autres bonus. Et donc il y a tout un bonus sur le mec qui a fait la conception artistique du film, et c'est drôle parce que c'est vraiment les bonus des années 90 où tu vois que les mecs ils sont pas du tout dans le côté promo, marketing corporate, quoi. C'est juste un mec, ils ont pris le stagiaire, ils lui ont demandé de prendre un caméscope et ils filmaient dans les bureaux les gars qui parlaient, donc c'est beaucoup plus naturel que les making-of de nos jours. Et donc, il décrit comment ils ont conçu un peu tous les délires, toutes les armes. Et la voiture, par exemple, la voiture de Blade dans les comics, c'est un truc qui est vraiment cabossé. Tu sens que c'est un truc un peu qui a pris dans la gueule, quoi. Et là, dans le film, ils ont décidé d'en faire un truc beaucoup plus clean parce que ça représente plus le personnage qui est un mec qui, malgré le fait qu'il se batte et tout, il a la classe, quoi. Il ne va pas avoir une voiture dégueulasse pour aller buter les
vampires. Il est anglais à l'origine, Blade.
Ouais, il est anglais, ouais.
Ouais, j'ai vu ça. Ils ont changé dans les années 90, en fait.
Ouais, est-ce que tu veux que je te résume un peu l'historique de Blade dans les comics ?
Je t'en prie, mon bichon, ça me fait plaisir.
Alors voilà, en fait, Blade, il est sorti d'une époque où les éditeurs de comics, et c'est encore une fois dans le Blu-ray, il y a tout un interview sur l'origine de ce perso, et il y a Stan Lee qui a interviewé pendant super longtemps, et c'est assez intéressant, justement, parce qu'il parle même des persos d'ici, ça m'a surpris, Stan Lee, ça fait marrant de l'entendre parler de Batman et de Superman et tout. Et en fait, il y avait un truc qui s'appelait la Ligue des Comics Association, enfin un truc de censure, en fait, d'autocensure, un peu comme le Codeys.
Comics Truc Authority.
Voilà, exactement.
Je sais plus
c'est
exactement.
Tamponner les comics qui avaient une. qui était moralement décent, et c'était des règles improbables. Hein. C'était en mode, t'as pas le droit de montrer de la drogue, faut que les méchants soient toujours punis, faut... Bah,
c'est pour ça qu'on a eu Batman des années 60, en fait. C'est,
ouais, voilà.
C'est pour exactement. Ça que Batman est devenu super pop dans les années 60, parce qu'il avait plus le droit de casser les gueules, en fait.
Ouais. Et ça, ça a été donc ultra influent pendant les années 60-70. Et en fait, Blade, c'est arrivé en réponse à ça. C'est arrivé avec des auteurs et même des éditeurs de comics, dont Marvel, mais qui avait quand même des persos qui étaient tamponnés avec l'équivalent du code. Et ben, ils se sont dit, non, mais vas-y, on en a marre, on va aussi faire des héros qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on n'a pas le droit de faire, quoi. Et donc Blade, il est totalement créé, il a été créé en contre-courant de tout ce qu'on avait le droit de faire. Enfin, tu vois, vraiment, c'était en opposition totale à ce qui était demandé à l'époque, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un méchant qui est un peu ambigu. C'est pour ça que bah on est dans un truc underground avec du sexe, des prostituées, des enfin c'est ultra gore. Voilà, il y a vraiment toute une panoplie de choses qui étaient l'opposé de ce
qu'on voulait.
Il est noir. Non, mais c'est des trucs. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vrai héros issu en fait de quasiment contestataire, quoi, d'une certaine ouais, d'une forme d'institution ultra un peu tu vois en mailloté, quoi. Et donc au moins ils ont sorti un truc qui a fait bouger les rangs. Et c'est ça qui est cool dans le perso, je trouve. Et
je crois que c'est dans les années 90 que la version un peu plus définitive, celle qu'on reconnaît de Wesley Snipes, est apparue, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'à l'origine, ce n'était pas un Daywalker, là. Je ne sais pas comment on dit déjà en français.
Le marcheur du jour. C'est quand même pas. En français, ça n'a.
Ils ont fait un jeu de mots très bizarre en français.
Ouais, en français, c'est tout pourri. C'est ça, c'est celui qui marche le jour. Non, c'est celui qui marche le jour, un truc comme ça, quoi.
Ok.
Ah, c'est tout pourri, la traduction elle est atroce.
Celui qui marche le jour.
Ah, mais c'est un truc comme ça. Hein.
C'est comme s'ils avaient traduit Skywalker, en fait. Quoi.
Exactement.
Ouais, d'accord.
Ouais, ouais.
On fait la rencontre de.
En français, il s'appelle. En VF, il s'appelle le Durmnambule.
Ah, voilà, exactement. C'est ça, j'ai dit. Voilà. J'ai dit Durne, je savais qu'il y avait un truc avec Durne.
C'est le Durmnambule, mais en VF, quand tu lis les sous-titres, dans la VOST, les sous-titres, ça traduit littéralement le nom du Daywalker. Donc c'est un peu particulier.
Et c'est logique, Durmnambule, quand on y réfléchit.
Ouais, je sais pas trop, je comprends pas ce que ça veut dire.
C'est osé comme traduction.
Bah, c'est qui marche le jour, c'est Durmnambule.
Ah oui, d'accord, somnambule.
Somnambule, c'est
figurant. D'accord, ok. C'est ce qui marche en normand. Non, mais je pense que t'as mis le point sur quelque chose de sémantique, mais...
J'ai fait du latin, ok.
C'est ça, toi aussi.
Donc on fait la rencontre des méchants vampires, hein, qui sont tous autour d'une table. Ils contrôlent à peu près tout, hein, c'est ça qu'ils disent, les médias, la finance, tous ces trucs-là.
L'immobilier aussi.
L'immobilier, bien sûr. Et on rencontre Deacon Frost, qui est le grand méchant du film. Et qui, lui, a des nightclubs. Et la confrérie des vampires n'est pas contente parce qu'il attire l'attention et il n'a pas le sang pur. C'est-à-dire que lui, il est devenu vampire, il n'est pas né vampire. Qu'est-ce que vous pensez de cette représentation des vampires ? Qui change des mecs dans leur château, du cliché un petit peu, chaque vampire... Il y a des confréries des vampires la plupart du temps, ils sont un peu dans leur coin, les vampires, ils sont un peu chacun dans leur coin, non ?
Oui, au départ, surtout en littérature et dans les mythes originels, on va dire, c'est effectivement plutôt des êtres solitaires, quoi. Éventuellement, avec des sortes de, je sais pas, de harem ou ce qu'on veut pour les sortes de maîtres vampires, mais oui, il n'y a pas vraiment de confrérie, il me semble, aux racines du mythe du vampire.
Sauf dans What We Do in the Shadows, que je conseille à tout le monde si vous voulez voir des bons trucs, des bons vampires. Très bon film de Taika Waititi et très bonne série aussi. Tu l'as vu, Zoltan ?
Ouais, le film est très drôle. Ouais. J'ai pas vu la série. La série est
franchement dans la lancée, quoi.
Non, le film est très drôle. Mais c'est vrai que là, moi, c'est une représentation qu'on reverra, je trouve, beaucoup après Blade, tu vois, je pense à Daybreaker, qui un peu, bah là, c'est un monde où les vampires ont pris le dessus, mais où ça dépeint, je trouve, les vampires de cette manière-là. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres exemples récents où il y a ce côté société de vampires un peu underground, mais qui manipule tout le monde dans l'ombre. Mais j'ai pas la ref.
C'est pas dans Buffy, en tout cas.
Je pense à. Vas-y.
Non, j'en ai un sur le bout de la langue, mais qui me revient pas là. Il y a
la saga de comics qui est vachement bien, qui s'appelle American Vampire, qui est pour le coup très très cool. Et où on a un peu ça, mais de toute façon, c'est flingué, c'est des vampires qui peuvent vivre le jour, donc ça fausse les règles.
Tiens, bah allez, on va se marrer. C'est quoi votre film de vampire préféré?
Ah.
Ah ah. Mm-hmm. Judith.
Bah moi, c'est le Dracula de Coppola, mais j'aime aussi énormément le Nosferatu de Werner Herzog.
Ah oui, ça fera plaisir à mon pote Dorian qui nous écoute. Coucou Dorian, c'est un grand fan d'Herzog.
C'est qui la femme? C'est une Française, non?
Isabelle Adjani, oui.
Isabelle Adjani, c'est ça.
Ouais. Magnifique.
Ouais. Le remake de Silmerno, évidemment.
Très bon choix. Voilà.
Pour ma petite carte cinéphile, messieurs dames.
Moi, j'ai le film Le Vampire de New York avec Eddie Murphy.
Ah, mais toi, t'as toujours été déviant, toi.
C'est bien ça, hein, Le Vampire de New York, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça, si je me trompe pas.
Ouais,
de Wes Craven.
Ah ouais?
Et ouais, je crois que c'est un film de Wes Craven, Le Vampire de New York.
Ah ouais.
Et ouais, je te vérifie ça en temps réel.
Je vous confirme pas, j'avoue que j'ai pas tenté cette aventure-là.
Non, Le Vampire de New York, écoutez.
Bon, et toi, Maxime, en attendant que papy soit sur Internet.
J'hésite. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, et le Dracula de Coppola. Ouais. Je vous laisse choisir.
Ouais, le Dracula.
Et moi, je l'ai jamais vu le Dracula de Coppola encore.
Ah, ça vaut.
Non, c'est vrai. Oh là là, mec, ça va changer ta vie.
J'ai acheté le 4K. J'attends d'avoir le lecteur qui permet de lire parce que là, il a été refait. Il a été remasterisé, tout ça. Donc, je vais le découvrir il n'y a pas longtemps. Oui, c'est bel et bien Wes Craven et ses vampires à Brooklyn.
Je suis obligé de faire une référence aux inconnus et dire et là, le vampire, il se fait la gonzesse.
Oui, c'est vrai. Et il la suce. Bref. Ils vont pas jusque-là dans le sketch.
Il y a Monica Bellucci qui est dans ce film d'ailleurs.
Eh oui, décidément.
Et son tout premier rôle.
Et l'élu.
Et moi, j'arrive pas à vous dire un film de vampire qui vraiment me plaît énormément. J'adore le concept des vampires. Mais peut-être qu'il me manque encore ce grand film qui me parlera. En fait, j'en ai écrit un, donc c'est pour ça que j'ai peu. J'en ai écrit deux d'ailleurs. J'ai écrit un court métrage et un long métrage, donc je suis.
Ouais, assez, du coup, tu vas nous les lire en direct.
Voilà, exactement. C'est
Est-ce qu'une nuit en enfer peut être considérée comme un film de vampire?
Ah oui, bien sûr. Oui,
donc, je vais dire ça finalement.
Ah, ouais, c'est vrai qu'une nuit en enfer, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, une nuit en enfer.
Bon, moi, c'est Buffy, vous le savez très bien. Buffy, le film avec... comment il s'appelle déjà? C'était l'acteur de Beverly Hills qui est décédé. Là.
Alors là, aucune idée. Ah si, Perry.
Oui,
oui.
Luc Perry.
Luc Perry, oui, c'est ça.
Voilà. C'est le film Buffy avec Luc Perry. Et vérifiez, ça existe vraiment. C'est vraiment un truc qui a existé. Non, c'est la série Buffy, c'est au-dessus de tout. Quoi. Voilà.
Bah moi, je vais dire, c'est Underworld, où c'est 30 jours de nuit. Non, c'est horrible. Morse, voilà, Morse, c'est ça mon préféré. Autant
que oui, Morse, extra.
Non, maintenant que je m'en souviens, c'est Morse. Morse, c'est vraiment.
Moi, c'est Twilight, mais celui où il y a le bébé bizarre.
C'est le tout dernier.
Ok. Bah, je veux juste la scène avec le bébé bizarre pendant 2h30. Et ça, c'est le plus grand film d'horreur de tous les temps.
Tu m'étonnes.
Bon, retournons à Blade. Blade qui prend un sérum parce qu'il ne veut pas boire le sang des gens.
Ouais.
Parce que jusque là apparemment il bouffait des SDF ou c'est ça hein,
ouais, jusqu'à l'âge de 13 ans il bouffait des SDF et le fameux Abraham Stoker
Whistler,
en fait il a le même nom que il a le même prénom que Bram Stoker l'auteur de Dracula c'est une ref mais bref donc Whistler l'a recueilli. Et l'a un peu élevé en mode tu vas devenir ma relève dans la chasse aux vampires.
Et d'ailleurs, les vampires, donc pour les tuer, il faut des balles en argent, de l'ail. Sinon, il n'y a pas grand chose. C'est pas,
ils n'ont pas tout le délire de croix.
La lumière du jour.
Ouais. Tu peux les cramer, ils reviennent. Tu peux leur couper un bras, le bras repousse.
Ça me fait marrer la justification qu'ils ont donnée pour, pour dire pourquoi les croix ça marche pas et tout. Il dit mais si ton vampire il est juif, hein?
Mais j'ai toujours eu cette façon de penser. Je me suis toujours dit, il y a un truc qui va pas quand même. Parce que l'eau bénite, par exemple, tu vois, c'est.
Ah bah, c'est une petite vision des choses chrétiennes, quoi.
Ouais, voilà.
Je sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud.
T'as failli dire judéo-chrétien, mais là.
Ouais, j'ai failli dire, je me suis arrêté. Moi, j'adore cet acteur. Déjà, il a un nom impropre. Enfin, j'aime bien son nom. Christopherson.
Chris Christopherson, ça me fait toujours marrer.
Et il joue dans la Porte du Paradis, qui est un grand film de Michael Cimino.
Je l'ai vu dans les Portes du Paradis, qui est un grand film de Michael Cimino, qui a fait couler tout un studio. T'aurais pu préciser.
je te laisse aller au bout. Hein.
Et moi, je l'ai vu dans un film de Sofia Coppola.
Bah, elle a pas fait 50 000. Donc,
Ou c'est des gens riches autour d'une piscine. Merde, c'est pas très,
ouais,
c'est pas très précis.
C'est tous ces films, ça.
Il y a des acteurs, il y a une jeune fille très, Bling Bling. Très jeune, pâle et blonde.
Ah, Somewhere.
Oui, Somewhere. Ouais.
Mais là, j'étais en train de décrire
oui,
tous ces
films. Tous les
films,
je sais pas.
Ouais, il joue dans Somewhere. C'est lui le père dans Somewhere. C'est
non, pas du tout.
C'est
pas
non.
Mais non, c'est là,
qui le. Ah, c'est Dorf.
C'est Dorf, exactement, oui.
C'est Dorf qui a joué. Je croyais qu'on parlait de. On parlait de Frost, là.
Mais non, moi, je parlais de Abraham.
Ah, ok. Donc, ouais. Moi, je parlais de Frost, de Deacon Frost qui jouait dans Somewhere. Voilà.
Okay. Ouais, ouais.
C'est lui? Putain, je l'ai même pas reconnu.
Si, c'est lui, ouais.
Ah, d'accord, ok.
Ouais, c'est ça, c'est Stephen Dorff, exactement. Mais c'est vrai qu'il est mieux dans. Enfin, moi, je l'aime bien, en fait, Stephen Dorff. C'est vraiment le connard, quoi. Il incarne parfaitement le connard.
Mark Wahlberg avait auditionné pour le rôle, d'ailleurs.
Il aurait été très bon en connard.
Bah, c'est Mark, hein, donc forcément.
Marky Mark.
Est-ce que tu savais, Judith, que Mark avait tabassé des gens et rendu des gens handicapés quand il était jeune?
Non.
Bah, voilà, on te le dit, on te l'avoue.
Je suis ravi de l'apprendre.
Pourquoi tu balances ça comme ça d'un coup? C'est mon truc normalement de balancer les dossiers sur les acteurs.
Tu as déjà balancé à l'épisode d'avant, alors je me permets de le.
Ah, c'était à l'épisode d'avant, je me disais bien que je l'avais fait, mais je ne me rappelais plus. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il abandonne plus ou moins Karen à un moment et il est super parano en disant ne faites confiance à personne, ne parlez à personne, et il l'abandonne au milieu de la rue comme ça. Et ça, t'imagines quoi. ça m'a vachement bien fait marrer.
Moi, ouais, il y a un truc qui m'a saoulé quand même dans ce film, c'est le rapport des vampires à la lumière du jour. Quoi. C'est un peu.
Ils mettent de la crème. Ils mettent de la crème.
Ouais, c'est bidon.
Ça veut dire qu'ils doivent se mettre de la crème partout. Ça veut dire qu'ils doivent se mettre de la crème sur la bouche, mais vraiment partout. Quoi.
Ah ouais, c'est super bidon. Quoi.
Sur les cheveux.
Dans les cheveux, quoi. Enfin,
ouais, voilà.
En plus, c'est pas, ils en jouent parce que d'un coup, Blade, il le regarde en disant, ah, de la crème, ok, d'accord, t'as pas trouvé mieux, quoi. Il dit, oh, c'est un début, ouais, ça marche très bien, ton truc, je trouve ça nul.
Elle se fait attaquer par un flic qui est en fait un familier. Et
Bah ça, c'est très bien dépeint dans What We Do in the Shadow, justement.
Voilà, ça m'a fait penser à ça, bien sûr, mais j'aime bien la manière dont ils l'ont adapté au monde moderne. Tu vois, c'est un flic. Tu dirais là, jamais ce serait. Enfin, il considérait qu'un vampire est son maître ou truc comme ça. Enfin, quand tu le vois comme ça, tu l'imagines pas. Et en fait, si. J'ai trouvé que ça tenait bien. Et en plus, le gars, il veut vraiment pas vendre le morceau, quoi. Tu vois, c'est pas genre au bout de deux trois droites dans sa gueule, il va vendre le morceau. C'est vraiment jusqu'à ce que. Il se fait poursuivre pendant je sais pas combien de temps. Elle dure longtemps, la scène avec la poursuite avec le flic. Elle dure au moins 40 minutes, Zoltan.
Ah, au moins la moitié du film. Ouais. Ouais, ouais, au moins. Ouais. Non, c'est clair. Et vous, ce serait un choix qui vous.
Oui.
Toi, tu deviens vampire, toi?
Ah, complètement, ouais. Je sors déjà pas le jour, alors ça change.
Ouais, c'est
pas
ça, déjà, toi, tu sors pas le jour, ça c'est clair, premier truc. Donc, toi, l'immortalité, tu prends, quoi.
Ah, ouais, carrément. Ah, ouais. Voir l'humanité crever et tout et être là en train de boire du bourbon. Ah, ouais.
Ah, du bourbon. Toi, Judith, tu prends
Bah écoute, moi c'est un peu pareil. De toute manière, je vis déjà la nuit. Je joue jamais mes volets, mais en vrai, l'immortalité, non. Enfin, franchement, je me fais déjà chier. Ça me ferait chier de vivre pour toujours.
T'as pas envie de voir les voitures volantes et les trucs comme ça, quoi.
Non, non. Ah.
Ouais, moi non plus, je suis comme Max, moi je vous laisse votre vie de vampire là, vivre la nuit et tout.
Eh bien je me ferai un plaisir de vous manger en premier. Voilà.
Ah, mais me convertis pas, hein. Tu me bouffes.
Ah non, je convertirai personne, ça c'est un truc. Je ferai croire à tout le monde, toi je vais te convertir, mais non. Je vais convertir mon chat, voilà, c'est tout.
Ah ouais, bah Michel, c'est peut-être déjà rempli.
Possible d'avoir des chats vampires.
Bon, ouais, je crois qu'il y en a dans certains.
Ils se transforment en chauve-chat. Okay. Bon, désolé. Un truc qui m'a bien fait marrer dans le film aussi, c'est que Blade, il pique les montres pour se faire de l'argent.
C'est génial.
C'est pas mal qu'il justifie. Hein.
Il pique la montre du flic et tout. Ouais.
Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont justifiés pour rendre un peu l'univers crédible autour des vampires qui sont dans la société et tout ça, c'est bien marrant.
Bah ouais, déjà tout le délire de pourquoi on n'en parle pas, c'est parce que bah, leur société a fait un pacte et tout ça.
Ouais, il y a juste le nouveau vampire qui fout la merde avec ses boîtes de nuit et tout, mais
c'est
sinon,
ça, ouais.
Sinon ils sont assez secrets, quoi.
Ouais. Ouais, et que Blade, lui, il finance ça en chourant tous les vampires qui butent, je trouve ça plutôt cohérent.
Blade et Karen vont en boîte, où il y a des écolières japonaises qui chantent.
Ah, cette boîte,
elle est... Elle est...
Ouais, cette boîte, elle... ouais. En fait, putain, j'étais là, moi, je me suis dit, putain, mais il y a une... Genre, les gens kiffent aller dans ce genre d'endroit, quoi. Avec ce son horrible, cette lumière pourrie, ces étudiants qui chantent et tout, là. Enfer, cette boîte.
Toi, t'es pas
putain,
trop...
Est-ce que c'est une boîte de vampires ou pas?
Oui.
Bah, parce qu'au final, j'ai pas trop... Enfin, j'étais pas sûr si c'était vraiment une boîte avec que des vampires ou si c'était derrière cette boîte qu'il y avait le truc
bah,
de vampire.
Bah, il disait
c'est un autre club de Frost, en fait.
Il ouais, disait que ça, le videur était un vampire, que les gens qui étaient au coin de la rue en train de s'embrasser étaient des vampires, que la prostituée du coin était une vampire.
Bah, d'ailleurs, la prostituée du coin, elle se fait bouffer par le réalisateur. C'est un caméo du réalisateur. Il joue le vampire qui la bouffe au coin d'un blanc, là.
Tu vois, ça en dit toujours beaucoup sur les réalisateurs, le caméo qu'ils choisissent.
Non mais mec, attends, tu crois pas si bien dire. Vous savez sur quelle image son nom apparaît au générique?
Non.
Il apparaît au moment où, dans la boîte de nuit du début, t'as un mec qui embrasse une meuf et qui se fait sucer par une autre. Une espèce de redneck.
Ah ouais, ouais.
Et il y a son nom qui apparaît avec marqué réalisé par, et c'est sur ce gars. Et tu te dis, ah ouais, t'es pas loin des beaufs, t'as pas du tout.
Va falloir qu'on arrête de parler des films de gros lourdeaux, là. Ça commence à faire beaucoup d'affilée.
C'est clair.
Bah, les années 90, hein, je veux dire, s'il y a pas un, je pense que c'est le mot qui définit mieux cette décennie au niveau du cinéma, c'est gros lourdeaux, quoi.
Reparlons un petit peu de Wesley encore, parce que je le trouve fascinant dans ce film. Il a l'air plus ou moins blasé, mais en même temps, il a ce côté qui s'amuse bien et qui sait toujours faire une petite phrase. Très Blaxploitation, quoi. Ça m'a vachement fait penser à la Blaxploitation. Et ça, je me suis dit, c'est dommage que Wesley Snipes n'ait pas joué Black Dynamite. Tu vois, il aurait été parfait dans le rôle de Black Dynamite.
Ah ouais.
Je
ne
sais pas
ouais,
si vous avez vu ce film. Mais,
Excellent film.
Bah, tu me diras, il joue dedans.
Il joue dedans,
Wesley? Ah non, enfin, il joue dans le film My Name is Dolemite.
Oui, donc... exactement.
Ah enfin, oui.
Il joue l'acteur homo.
Oui, non, mais ça, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, ouais.
Il est excellent, d'ailleurs.
Il est pas mal, ce film, il est vraiment sympa.
C'est peut-être le meilleur film Netflix que j'ai vu, moi, d'ailleurs.
Qui est sur Netflix,
ouais.
Donc voilà, c'était le petit moment Wesley Snipes, parce qu'on n'attendait pas Will Smith, hein. Donc Frost, il traduit un langage en hackant la matrice, c'est tout le tralala. Ils ont fait une sorte de truc en 3D qui nous montre au moins 10 fois dans le film, tellement ils sont fiers du truc en 3D qu'ils ont fait. Tu sais, avec les 12 mecs autour, avec le... tu vois, ils le montrent je ne sais pas combien de fois dans le film, quoi.
Ouais, ça, j'avoue, ça...
c'est un peu vieilli, là. Pour le coup.
Ah ouais.
Oui, il y a quelques effets numériques qui ont un petit peu vieilli, quand même.
T'as pas vu, je suppose que t'as pas vu la fin alternative, Judith, parce que la fin alternative, elle vaut son petit pesant de cacahuète.
Le monstre en sang
avec la tête de Frost qui apparaît au milieu, c'est
un vrai plaisir.
C'est un grand moment de fail d'effets spéciaux.
Ah oui, non, parce que déjà, la fin que j'ai vue, c'est plus ou moins du fail d'effets spéciaux, mais alors si en plus il y a pire en alternative.
Ah, il y a pire. Et je peux te dire que dans le bonus du Blu-ray, ils en sont très très fiers de leur main du corps qui est rattrapé par la. Mais par contre, leur grosse boule de sang géante avec la tête de Frost, ça, ils avaient conscience que c'était déjà de la merde à l'époque. Quoi.
Quand les mecs explosent aussi, c'est quand même.
Ah ouais, non. Ah, les mecs explosent. Bah, après, il y a beaucoup de. Pour le coup, ce qu'on peut mettre au crédit du film, c'est que c'est une époque où ils comptaient pas que sur le numérique. Et il y a quand même beaucoup d'effets pratiques, quoi. Et
ouais, par exemple, il y a Pearl, là, le personnage Pearl.
Est horrible.
Qui est. Qui est apparemment construit de plein de. Enfin, est-ce que tu as vu. Ils en ont parlé dans le making-of.
Ouais, bien sûr. Bah, ils sont fait kiffer, ouais. Ouais, c'est 700 kilos de latex. Ouais. Il est construit sur une caravane, en fait. Et comme ça, il bougeait la caravane dans les différents départements pour le construire. Il a été évidemment transporté sur le décor via une grue. Et en fait, c'est une masse de silicone qui est animée par 4 personnes, en plus du comédien qui joue la tête. Et ils avaient des tuyaux pour le refroidir parce qu'il faisait 60 degrés dedans. Et je trouve que franchement, c'est bluffant. J'ai trouvé ça ignoblissime. Et en fait, c'est un mec qui se nourrit de bébés. Voilà.
Ah, est sympathique.
Ouais.
Bah, ça me fait penser à un personnage dans Buffy. Je crois bébé. Que t'en es où? T'es encore en la saison 1? T'as abandonné?
Alors, vu que je bosse, en fait, j'ai regardé. J'avance de 3 minutes par 3 minutes en m'endormant le soir sur le dernier épisode de la saison 1. Là, tu vois, non, mais littéralement, hein, je me suis fait.
Bon, t'arrives.
J'ai 16 ans et je veux pas mourir. Je me la suis faite 8 fois. Et
T'arrives bientôt aux bonnes saisons et ensuite c'est bien parti jusqu'à la fin.
Ouais. Oh, c'est parfait pour s'endormir le soir, hein, Buffy. Et... Mais vu que j'ai eu Zelda.
Mais il y a un personnage qui est à peu près pareil, je sais plus comment il s'appelle, c'est une sorte de gros vampire énorme qui est dans une sorte d'énorme baignoire, et autour de lui il y a des vampires qui lui foutent de l'eau sur le dos, tu vois, enfin qui sont tout le temps en train de lui mettre de l'eau sur son corps avec des sortes de grosses cuillères comme ça, ils sont tout le temps, et c'est dégueulasse aussi, et je pense que c'est sûrement inspiré de ce personnage dans Blade, parce que les deux se ressemblent vraiment énormément, quoi.
Ah ouais, mais là tout est dégueu, la voix est dégueu, le je trouve que même le maquillage quand il crame et tout, c'est dégueulasse, enfin.
On n'a pas fait beaucoup de films rated R. On a fait les deux Deadpool, ouais. Logan.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de rated R?
Je crois que c'est quasiment tout. Hein.
V for Vendetta, c'était pas rated R.
Oh, il y a moyen hein, quand même. Hein. Le combat de fin et tout, là.
Bah, tu vois, celui-là, je trouve que c'est un rated R gentil quand même. Il y a beaucoup de sang.
C'est un rated
R
des années 90, quoi.
Voilà, ouais, mais quand tu compares à Logan, où il y a quand même de la grosse violence, ou Deadpool, où c'est quand même, voilà, il y a des trucs décapités à longueur de temps, en gros plan, ralenti, sur tous les angles. Là, je trouve que c'est quand même pas non plus. C'est pas l'apologie de la violence.
Non, mais je t'avoue que je bouffais des gnocchis devant ce film, et la séquence justement avec cet énorme vampire là, bah, j'avais pas trop envie de bouffer devant. Hein. C'était vraiment dégueu. Hein. Enfin,
faut qu'on parle de ta nutrition, hein, Zoltan.
Bah, des gnocchis, ça va quoi.
Je sais. Et le crame avec une lampe UV.
Ouais.
Qui est très, très, très malin, je trouve. Ça aussi, encore une idée qu'on ne voit pas forcément dans les films de vampires.
Ce sera bien exploité dans la suite, pour le coup.
Oui,
la lampe
UV. Ouais.
Sans me tromper, la suite, elle est super bien. Hein,
elle est incroyable.
Voilà, donc c'est plus dans la suite qui se lance. Parce que là, ça commence. On a le début qui est super bien, et là, ça commence à devenir un peu.
Ouais, la suite bah, on en parlera la semaine prochaine, mais la suite, c'est beaucoup plus. Jouissif quoi, ouais, film d'exploitation quoi, ça joue vraiment le truc des monstres, des vampires, on va se les faire affronter, et en plus c'est plutôt un mec passionné qui est derrière tout ça, donc ça donne un bon truc quoi.
J'ai vraiment préféré le premier moi pour le coup, mais enfin bon, on en parlera le moment venu.
Non mais je trouve ça intéressant, je trouve que le premier a un côté au moins, moi j'aime beaucoup le premier dans son habilité à poser cet univers et à te le rendre. En fait, ce que j'aime beaucoup, je vais le dire maintenant, mais c'est que c'est une origin story pour le spectateur, mais pas pour le personnage. Et ça, je trouve que c'est rare, en fait, dans les films de super-héros, de réussir à te présenter le personnage sans que tu aies l'impression que c'est genre sa première mission ou son premier truc.
Justement, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à X-Men, où tu découvres les X-Men et ils sont déjà en mission et tout, parce que tu as un nouveau personnage qui découvre ça. Et là, c'est Karen, par exemple, dans le film, et tu découvres Blade avec elle, en fait. Et c'est, ouais, c'est toujours bien d'avoir un personnage qui est comme le spectateur, qui découvre les choses comme ça. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare, tu vois. Ils essaient de le faire un petit peu dans Man of Steel avec Lois Lane, mais tu as déjà vu 30 minutes de backstory avant, donc ça marche pas forcément, tu vois. Ils auraient dû mettre l'histoire avec Lois Lane au début du film, par exemple. Qu'on découvre ce personnage Superman, ça aurait été très intéressant de faire ça, par exemple. Et je trouve que c'est vrai, ça manque.
Mais après, là, l'écriture du personnage de Karen, moi, ça m'a un peu dérangé ce rôle qu'elle a dans ce film, parce que elle sert vraiment qu'à ça, quoi. C'est vraiment, je veux dire, ça se sent l'utilité du personnage. Je veux dire, elle est d'une transparence tellement elle n'est pas construite, tellement elle n'est pas intéressante par ailleurs. C'est un peu dommage, moi, ça m'a un peu sorti du film.
C'est frustrant,
par
ouais. Après, elle lui sauve la vie, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films.
Ouais, mais c'est le minimum à lui donner. Hein.
Et il n'y a pas vraiment de romance pourrie, quoi. Enfin,
il y a même pas du tout.
Elle lui sauve la vie, tu veux dire, quand elle lui donne son sang.
Bah ouais, elle le libère, elle lui fait son sang. Ouais, elle lui sauve
la vie. Mais c'est vraiment une scène de cul. Hein.
Ah, c'est une scène de cul, par contre, ça, on est d'accord.
Donc il n'y a pas de romance
scènes,
débile, mais il y a une scène de cul, quoi.
Ouais,
comme
mais
toutes les scènes dans le genre, hein, dans tous les films de vampires, toutes les scènes de morsure et tout, c'est toujours avec une connotation, quoi. C'est obligatoire.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'en général, quand c'est une nana un peu importante dans le film, quand c'est pas qu'une proie, en général, ça va soit. Avec une histoire d'amour ou soit avec une relation un peu plus intéressante malgré tout. Là, c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'ils sont très liés par ailleurs dans le film, et tout d'un coup, tu as cette espèce de scène qui est quand même limite un peu gênante, tellement c'est du cul sans en être.
Ouais, c'est clair.
Et bon, j'étais un peu
avec
genre.
Phrases,
ouais.
T'arrêtes pas.
Oui, j'avais l'impression d'être devant un porno habillé, moi, un peu, tu vois. C'est...
Ouais, c'est clair que. Non, mais j'avoue, le t'arrêtes pas, il est un peu. Il est un peu, dans là, vous poussez, on a compris.
Le montage hyper cut et tout, genre, c'est bon, les mecs, on a compris.
Surtout en parallèle avec ce qui se passe à côté, ça c'est pas du tout harmonieux, j'avoue.
Je sais pas, il manque une scène où il se rapproche, en fait, avant.
Oui.
Une scène où il se rapproche un petit peu, quoi.
Ouais,
mais...
C'est un peu abrupt le moment où il. En fait, tu sais, il a. il la laisse et après il se fait kidnapper et il la retrouve dans le fourgon, il se réveille, il est là avec elle. Et t'as, là, je pense qu'il manque une scène, il manque une scène avant où genre, ils se sont livrés un peu plus ou je sais pas quoi, ou même que elle lui a raconté un peu plus sa vie ou tu vois. Après, je trouve ça rigolo la réaction qu'elle a, enfin le rapport avec sa relation toxique du début. Qui vient là, qui devient une espèce de mort-vivant qui veut la bouffer. Enfin, tu vois, mine de rien, je trouve qu'il y a des petits trucs comme ça qui reviennent et qui sont. Elle fait pas potiche, quoi. Alors qu'à l'époque, je peux vous rappeler les personnages féminins des films de super-héros. Je peux vous
Batman
dire.
Forever.
Ah bah, c'était hardcore, hein. Donc,
Voilà.
moi, je suis plutôt. Enfin, je comprends ce que tu dis, hein, Judith. En effet, c'est pas, elle est pas extraordinaire, mais par rapport aux standards de l'époque, je la trouve beaucoup moins.
Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Effectivement, elle ne fait pas potiche, elle est plutôt. Enfin,
Elle
elle, prise
trouve
à part, elle
le
est plutôt cool. C'est
vaccin,
juste son utilisation dans le film qui est un peu. Qui est frustrante, quoi. Mais c'est sûr,
là.
c'est clair qu'il y a pire. Hein.
Ouais,
Ouais, en plus.
Si tu la compares, par exemple, à la plupart des Bond Girls, elle s'en sort
Ah
bien.
oui,
Tu vois, elle s'en sort
bah
très
oui.
bien. Voilà.
Mais comparée à une merde aussi, elle s'en sort bien, si tu veux. Mais.
Les Blade Girls,
On la revoit dans le 2 ou...
Non, non, non,
Mais
pas.
non!
Le
C'est
2, c'est
pénible!
improbable. Le début du 2, je me rappelle qu'il y a une espèce de recon.
Bah
Ah, mais
attends,
oui!
me dis pas,
Ah ouais,
je vais
ça va, tu
découvrir
vas,
ça.
enfin, je crois que tu vas pas aimer, toi qui aimes pas qui aimes pas ce genre de truc, là.
Ah, moi, le début du 2, il m'a vénère. Hein. On
Ah
verra ça à ce
ouais,
moment-là, mais.
non, mais c'est vrai, le début du 2, il est un peu énervant.
Donc, on a une prophétie. L'esprit des 12 réveillera le dieu du sang et on fera tous une orgie dans le sang. J'ai décidé d'essayer de placer les mots orgie dans le sang le plus possible dans l'épisode.
Bah, tu fais toujours les mêmes boîtes de nuit, quoi. Tu veux pas nous en parler
Il y a
trop.
la Bible des vampires. Ça m'a fait rire, ça. C'est quoi? Il y a un vampire. Il y a Jésus vampire. C'est tout pareil, mais de nuit, quoi.
Mais là, franchement, ce qui me fait de la peine, c'est aussi les membres des fameux 12. Les gars, c'est genre les gros chefs du clan vampire. Ils se font, mais balader comme des
Ouais, il y a
balambos,
genre deux, trois mecs qui viennent les choper, il n'y a pas de problème, oui, on vous suit.
Aucune résistance.
Mais grave, grave. Ils sont logiquement, moi je m'étais dit, peut-être que les vrais vampires, entre guillemets, ont des super pouvoirs un peu plus importants que les autres, tu sais, un peu
Ce
plus
qui est
comme
le cas, dans le
Dracula.
film.
Et ils font rien de spécial.
Ah, ils font rien, ils se font buter comme des merdes. Enfin.
J'aime bien la petite scène avec Whistler qui débarque et qui tue tout le monde. Et surtout le métro en CGI.
Ah, le fameux métro en CGI, ouais.
Le métro en CGI est quand même sympathique.
Il
Là,
n'a
on
pas trop,
commence.
trop mal
Non,
vieilli.
il n'est pas terrible. Il n'est
Oh.
pas horrible.
Non, ça passe
Ah.
encore, quoi.
Ouais,
Mais
ouais.
c'est pas genre affreux, quoi. Tu vois, je veux dire, comparé à Exit Gentleman Extraordinaire qu'on a vu,
Ouais, voilà,
qu'on a vu il
exactement.
n'y a pas longtemps et qui a quand même 6 ans de plus, c'est le jour et la nuit, quoi. Là,
Six
ça
ans.
passe, quoi. Ouais, 6 ans de plus. Ouais.
Ah, putain.
T'imagines,
Ça
c'est
se
vrai que ça a été
relativise
fait la
un
même
peu.
année. Hein. On dirait que ça a
Ouais.
été fait la même
Ah,
année.
bah ouais. Surtout, c'est sorti 8 ans après Jurassic Park, quoi.
Après, ça a été très très vite, hein, les effets spéciaux quand même, et tu sens qu'il y en a qui ont pas mis l'argent où il fallait,
En
quoi.
fait, non, mais surtout qu'en fait, je pense qu'il y a une période début 2000 où ils ont vraiment pris la confiance. Et là, on s'est retrouvé avec The Rock dans le retour de la momie, là, en roi scorpion ignoble. On s'est retrouvé avec la Ligue des Gentlemen extraordinaire avec ce Nautilus dégueulasse. Enfin,
Daredevil avec
ouais,
son
ils ont
truc.
vraiment pris la confiance et à un moment, fallait pas, quoi. Ou même Catwoman, hein, je veux dire. Et encore, les épisodes de Catwoman, je trouve pas mal fait, moi. Mais je suis déviant, moi.
Ah, c'est plus déviant là.
Ah, j'ai fait une vidéo, je l'explique très bien. Hein. Tu verras, tu peux y aller.
Mais tu peux l'expliquer. Hein.
Ouais,
Tu me l'as expliqué aussi quand on a fait l'épisode.
mais il n'y avait pas l'image, je pouvais pas te le montrer. Je
Ah
pouvais
oui, c'est
pas te
vrai.
montrer les plans un par un et te dire,
Ouais.
regarde, c'est pas mal fait.
Ouais. Tu sais, moi, les youtubeurs.
Bah, je sais, je sais même pas ce que je fous là, moi d'ailleurs.
Moi, je suis. J'ai deux youtubeurs là, ce soir. On apprend que Blade a donc aucune des faiblesses des vampires. Mais qui vieillit comme un humain normal. Alors là, est-ce que si vous aviez le choix de devenir Blade, vous le ferez ou vous le faites ou pas?
Oui, là, oui.
Ouais, bah ouais.
C'est un peu la flemme, hein, quand même, hein, de devoir
Oh.
boire du sang. Parce que, enfin, il dit ça, mais la plus grosse faiblesse, c'est quand même de devoir se nourrir de sang, quoi. Et ça, pour
Mais
le
t'as le
coup,
petit sérum, là.
Mais oui, c'est
Ah,
ça.
ouais, il
Tu prends
galère,
ta
hein.
petite dose et puis voilà.
Ouais, il galère un peu, j'ai l'impression.
Et elle lui a dit, hein, elle lui dit à un moment qu'elle peut faire un sérum mais qui lui enlèverait tous ses pouvoirs, c'est ça?
Ouais, c'est ça, à toute fin, elle lui
Exactement.
dit. Ouais.
Ouais.
Bon, j'ai vu la suite, il l'a pas pris, le sérum.
Ce serait bizarre
Ou
si
il a
Blade
juste
c'était un mec
oublié cette
normal.
histoire.
Ouais, c'est clair, il a totalement
Peut-être plus
oublié.
ça, ouais.
Et Whistler a perdu sa famille parce que sa famille est morte, tuée par
Ah
un
bah lui
vampire.
franchement, je pense qu'on aurait pu résumer par le cliché du mentor
Le
traumatisé.
mentor
Et en plus a un
dont tuait
cancer.
sa famille.
Ouais, et qui a un cancer
Et
aussi.
il
Et donc
boite,
condamné.
et il boite aussi. Ils ont tué toute sa famille à 3 jours de la retraite, hein, bien sûr.
Ouais.
Donc Frost, tu es le chef des vampires qui s'appelle Dragonetti. Je me sens obligé de le dire parce que salut, bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment ? Moi, c'est Jean et toi, moi, c'est Dragonetti. C'est un nom pas très facile à porter. Hein,
Moi, ce qui me fait marrer, c'est cette séquence, elle est très moche en effets spéciaux déjà. Mmh. Cette espèce de flamme qui les chope et tout, là, c'est dégueulasse. Mais là, pour le coup, c'est le coup de la crème solaire, ça me saoule. Quoi.
Ouais, non, c'est vraiment, passage, ça te sort du film. En plus, t'as aucune raison. À ce moment-là, tu te dis, ils ont trouvé une drogue ou un truc dans le genre qu'ils peuvent utiliser qu'une fois. Tu sais, un truc comme ça, quoi.
Bah non, mais même, ils sont avec des casques de moto.
Mais oui, c'est ça, il y a les casques de moto pour justifier, quoi.
Mais avant, faites de la crème, en plus, après, il est en plein jour et tout, c'est bidon, quoi.
Ouais, quand il est en plein jour dans le parc, là, ça n'a aucun sens. Quoi.
Ah, c'est bidon. Ouais. Franchement, c'est son premier jour de tournage, d'ailleurs. Et ils sont bien pris la tête, Wesley Snipes et lui. Il y a un commentaire audio qu'il faut que j'écoute où vraiment, Wesley Snipes, je crois qu'il balance pas mal.
Ah, c'est son truc, ouais, c'est Snipes. Il n'a pas de filtre. Il n'a aucun filtre, ce mec.
Mais juste avant, il y a au début du film, il y a une séquence donc, entre Dragonetti et Frost, où Dragonetti lui fout une baffe. Je crois que c'est une des plus mauvaises baffes de l'histoire du cinéma. Elle passe à 20 cm de la tête. Ridicule. Quoi. Alors que t'es quand même dans un film où t'as un mec qui défoire des gars à coups de katana.
C'est pas Bud Spencer, quoi.
Et la cascade qui foire, c'est la putain de baffe au début du film. Par moment, tu te fais avoir par des détails de merde. Quoi.
Et entre nous, il y a les effets aussi de quand ils se battent. C'est...
Des effets. Oh,
C'est vraiment des effets pas forcément très bien foutus qui datent un peu le film. C'est là où tu te dis maintenant on essaie de faire des effets un peu plus réalistes. Quand tu mets une droite, ça fait pas.
Ouais, mais globalement, les effets audio, il y en a plein des bizarres d'ailleurs dans le film.
Mais oui, parce que alors non seulement ça date le film, puis en plus ça donne quand même un rendu qui est vraiment entre le jeu vidéo et le clip, moi je trouve souvent.
Mm-hmm. Ouais.
Il y a des scènes où ils se mettent tous des coups de poing. Il y a un plan où ils sont en train de se. Et il met des coups de poing et l'autre il l'esquive avec. Et ça dure pendant quelques temps. Et c'est que du coup.
Tu le fais très bien.
C'est tu l'imites très bien.
les coups un nouveau bruit de tâche trouvé par Sofiane.
Je sais imiter tous les enfants.
C'est le mec dans Police Academy en fait.
C'est ça, c'est moi.
Il y a un son par exemple, le lit de Frost, où à chaque fois qu'il s'ouvre là, bah, ça c'est le bruit dans Alien, le retour, Aliens, de l'ouverture des caissons du Nostromo là, au début du film. Mais ils ont repris le même bruitage. Voilà. C'est. Pour avoir des trivia de merde, vous me demandez.
Un de mes bruitages dans le genre préféré, c'est quand Dark Vador il remet son casque et ça fait chpong, une sorte de chpong. Voilà. Donc les vampires attaquent Whistler. Est-ce qu'il meurt Whistler
Oui, non.
Il l'abandonne avec son flingue et on le voit pas mourir.
On entend une balle quand même.
Mm-hmm. Okay.
On voit le flingue tomber et tout. Théoriquement, il meurt, hein, mais vu qu'il est là dans le 2.
Ah, bah voilà, c'est bien ce que je me disais. Je me disais bien qu'il était là
dans le 2 en plus.
Ah oui, il est dans le 3 aussi. Judith, tu viens aussi pour le 3 ?
Mais bien sûr, si je suis invité,
avec plaisir. Ma pauvre. Tu disais, j'ai peur que ce soit Nanar 10 ans. On va attendre deux films.
Maintenant que j'ai vu les deux premiers, écoute, je suis plus assez prêt. Hein.
Ah ouais, non, bah, le 3, j'ai beaucoup d'appréhension à le découvrir. Ouais. Mais là, il y a quand même une séquence où, encore une fois, tu te dis que les années 90 proposaient des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Tu as quand même Whistler, Frost, qui balance une gamine dans un stand de hot dog, là, et qui la défonce, la gamine de 6 ans. Mais là, à un moment, j'ai même cru qu'elle allait se faire écraser par un bus. Enfin, je me suis dit, ils sont capables d'aller jusque-là, quoi. Genre, vraiment. À partir du moment où il la défonce et qu'elle s'éclate dans le stand, là.
Mais en fait, tu sens totalement le ressort scénaristique, c'est que à un moment Blade dit, on en a rien à foutre de toute façon, c'est juste notre manger, les humains, on les mange et tout, pour faire croire qu'ils s'en foutent. Et donc ils font ouais, mais si on balance la gamine comme ça, Blade il va la sauver. Mais c'est juste que c'est dans la manière où ils le font, elle se prend quoi, un stand de hot dog, c'est vrai, elle se prend un truc dans la gueule. Elle traverse, c'est comme si elle traversait un mur en fait, quoi. Et elle continue, elle tombe à 20 mètres, hein, mais un truc comme ça, ouais, c'est magnifique. Est-ce que vous avez vu la scène dans un de ces films de Brad Pitt où il se fait écraser ?
Ah bah, dans Rencontre avec Joe Black, oui. Évidemment, chose très drôle, il y a pas si longtemps, il y a Patrick Echouillem, donc un youtubeur dont je parle souvent, qui a fait une vidéo où je sais pas pourquoi, il mentionnait cette scène, Et il l'a mise deux fois dans sa vidéo, et quand tu regardes, il a montré l'analytique de sa vidéo, c'était genre, il y a des pics de visionnage à ce moment-là où les gens se repassent cette scène en boucle dans sa vidéo.
Non, mais franchement, si vous l'avez jamais vu, cherchez donc, c'est quoi, Joe Black ?
Ouais, rencontre avec Joe Black, c'est le tout début du film.
Tu regardes Joe Black, Brad Pitt, et en fait, il se fait écraser par quatre voitures d'affilée, un truc comme ça.
Ouais, deux. Il se fait écraser par un taxi, il rebondit sur la voiture d'après.
Boum,
ouais.
Boum.
Ouais, ah, c'est ultra vénère, hein. Franchement.
Et la scène, elle dure facile 15 minutes en plus.
Ouais, non, c'est très très drôle.
Il sort la moto, Blade.
Ouais, 15 minutes, évidemment, on en foire.
Il tue plein de gens.
La moto, et là, c'est con, là. Elle est sous-exploitation de la moto quand même. Elle est trop belle.
Quand je l'ai vue, j'ai fait.
Mais elle roule même pas dans une rue, quoi. C'est trop décevant.
Ouais, c'est la. La moto de Tchekhov, normalement. Ouais, quand tu mets une moto, tu dois l'utiliser. Tu vois.
Ouais, bien, quoi.
Et donc là, il y a du CGI avec du sang qui explode.
Ah, j'aime bien ça. Je trouve ça plutôt classe.
T'aimes bien ?
Ouais,
j'aime bien le concept. Dégueu, j'aime bien le concept. Ouais. Mais l'exécution au niveau des effets spéciaux, c'est pas trop ça, quoi.
Moi, ça va.
Mais c'est un peu ce que tu aurais si tu mettais ta tête dans un micro-ondes. En fait.
Bah, en fait, j'aime bien le plan. Oui, c'est exactement ça. Mais vu que j'ai toujours rêvé de faire ça, moi, je...
ça ne m'étonne même pas. Je veux devenir de la bouffe. Mon rêve dans la vie, c'est de devenir de la bouffe.
De bouffe réchauffée au micro-ondes. Voilà. Non, par contre, j'adore le plan où il se barre et tu as le premier qui explose par le bas et juste après, tu as la tête qui explose sur le côté. Tu as cette espèce d'enchaînement de tête qui explose, mais tu ne les vois pas. Tu vois juste les giclées de sang. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très cool comme plan.
On a le twist du film.
Ah, y a un twist. De... ah oui, la daronne.
Sortie la mère de Blade est en vie et c'est une vampire.
C'est dégueu. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez de ce twist C'est vrai que sur le coup, j'ai fait « Ah, j'avais complètement oublié ce truc-là !» Et après, je me suis rappelé que c'était un des moments que j'avais trouvé qu'ils auraient pu en faire plus avec, en fait. Le concept est très intéressant, mais ils auraient pu faire bien plus avec. Ouais. Comme une scène à la Retour vers le futur où il couche presque avec sa mère, tu vois, un truc dans le temps.
Ah ouais, mais déjà, on n'est pas loin. Moi, je trouve que la mère, elle a un comportement un peu incestueux, un peu gênant déjà.
Très bizarre.
Hein. Le vampire, quoi.
Le bisou sur les lèvres, il est sport. Hein.
Ouais, les vampires, ils sont tous un peu comme ça. Hein. C'est leur truc, quoi. C'est aussi pour ça que je vais être un vampire.
Mais moi, là, ça fait déjà partie. Enfin, on est déjà largement dans la moitié du film où, bon, tout ce qui survenait de nouveau, je me disais, oh là là. Enfin. Ouais, là, c'est vraiment un moment où je me suis dit, allez, vas-y, encore un truc artificiel de plus, on n'est plus assez près.
Ouais, non, mais j'avoue que c'est un peu forcé. En plus, est-ce qu'il n'y aurait pas un... Moi, il y a un truc de date qui m'a perturbé, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, elle ne vieillit pas, donc c'est normal. Mais,
Oui, c'est pour ça.
Ouais, c'est intéressant d'avoir le même âge que sa mère. Il y a moyen de faire un truc intéressant avec. Et au final, ils font juste... Bah, c'est une vampire, un peu sexy, un peu genre...
mais c'est surtout la
mère,
façon
mais je vais te manger.
Surtout la façon dont elle réagit face à Blade, quoi, qui est très bizarre et pas très cohérente. Quoi.
Et il laisse même pas le temps. Vas-y.
Non, je veux dire, ça sert à rien, en fait, que ce soit sa mère, parce qu'elle revient en disant... voilà, de toute manière, ça fait tellement longtemps, machin. Elle est complètement détachée de lui, elle a plus du tout le lien de maternelle. Donc, ça pourrait, enfin, de son point de vue à elle, ça pourrait ne pas être sa mère, ce serait pareil. Et de son point de vue à lui, c'est pareil, ça a l'air d'évoquer tellement peu de choses que ce soit sa mère, si ce n'est une micro-hésitation avant de lui régler son compte. Je veux dire, ça servait à rien que ce soit sa daronne, quoi, franchement.
Ouais, carrément. En plus, il a une sorte de flashback où il se souvient de sa mère.
Oui,
c'est pas possible. C'est pas possible quand il a un flashback où il se souvient
de sa naissance en fait.
Après, il est un peu moitié humain, moitié vampire. Bon, peut-être quoi.
Ouais,
peut,
donc il peut se souvenir de toute sa vie quoi. Ça va. Alors là, je veux pas devenir vampire à ce moment-là. Hein. Imagine les flashbacks du Vietnam que tu dois te taper à chaque fois. Si tu te rappelles de tous les trucs que t'as dit ou fait dans ta vie, ça va être affreux quoi.
Ouais. Vraiment affreux.
Ils sont emmenés dans le temple des vampires.
Ah là là, là tout part à volo là.
Mm. Voilà, où Karen se fait attaquer par son ex.
Ouais.
Blade est mis dans un moule. Et c'est là qu'il y a la scène de cul, donc où il se mange. Enfin, il mange Karen.
Ouais, avant, il se fait bien couper les veines dégueulasses avec je sais pas combien de litres de sang qui coule là, c'est ignoblissime.
Ouais, ça, l'hémoglobine, il a encore envie. Hein.
Franchement, il y a du sang dans tous les sens. Hein. Même la scène où il bouffe son familier, Frost, et après, ils sont là à se pécho avec la meuf à côté de lui, et il a bouffé le cou. Et... enfin, il y a quand même, au niveau sang, le film, il balance de l'hémoglobine, je trouve, en masse. Quoi. Il se limite pas. Hein. C'est un peu dégueu. Moi, je me dis, si t'es hémophobe, là, pas homophobe, hein, hémophobe. Je sais pas si ça existe, mais.
Ça existe. Hémophobe, ça existe. Tu crois que ça.
Ah ouais. Genre les gens qui ont la phobie du sang.
Je sais
quoi.
Pas si ça se dit hémophobe. Non, je sais pas si ça se dit hémophobe, mais je sais qu'il y a un truc.
Ça se dit clairement pas comme ça. Ouais. Mais en tout cas voilà, tu peux pas regarder ce film quoi. Enfin je veux dire, il y a beaucoup trop de sang partout quoi. C'est dégueulasse. Oh. Ah mais toi t'es habitué à des trucs tellement.
Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais ouais non mais enfin c'est. Alors attends, ça s'appelle. Si hémophobie, la peur irrationnelle du sang. Alors c'est plus, on dit plus traditionnellement hématophobie, mais hémophobie existe.
Ça, j'ai envie de faire un court métrage sur ce qui propose.
Putain, Zoltan a dit un truc comme ça et ça, c'était vrai quoi. Il a dit un truc comme ça et nous on était là encore Zoltan qui se gourre sur les noms. Eh ben non, putain, tu vois, l'exception qui confirme la règle.
Gary, notre fils est hémophobe. Je peux pas regarder Blade, je suis homophobe.
Bref, ouais, bon, donc Blade se bat contre sa mère. Il y a un truc super métal par contre.
Ah, il y a un truc qui me gave aussi, vas-y, c'est quoi le truc super métal?
Bah, les 12 vampires qui se transforment en squelettes qui volent, c'est quand même super métal.
Là, parce que.
C'était où ça pendant tout le film, putain?
Mais moi, ce qui me saoule en parlant de métal, c'est la logique des vampires qui brûlent, qui meurent, qui disparaissent, qui se font tuer. Ça marche comment? Parce que les balles qui tirent, donc c'est supposé être des balles en argent, mais au final, les vampires. Au final, il n'arrête pas de salvater les gars à coups de mitraillette et il se passe rien, quoi.
Parce qu'il faut que ça soit dans la tête ou dans le cœur, je crois.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Parce que tu vois, sa mère, par exemple, il arrive à la buter avec un os, quoi.
Ça, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi comment il fait pour tuer sa mère?
Alors, dans le cœur, peut-être comme Buffy, c'est un pieu, quoi. C'est tout simplement ça.
Et d'ailleurs, le côté, les vampires qui disparaissent comme ça, là. Normalement, un vampire, ça reste quand même. Tu les tues. Ça disparaît pas à chaque fois que tu les tues, les vampires. Bah
dans Buffy, c'est exactement la même.
C'est pour ça que je dis dans Buffy. Buffy, c'est venu après Blade ou juste avant Blade?
C'est l'année d'avant.
Voilà.
Ça a été diffusé l'année d'avant.
Bon, ça m'étonnerait que Blade se soit inspiré de Buffy.
Ça m'étonnerait aussi, ouais.
La première saison, en tout cas, c'était plutôt Under the Radar. Mais en tout cas, ouais, normalement, est-ce que Dracula, Judith, tu vas peut-être me le dire, est-ce que Dracula, quand tu tues Dracula, son corps disparaît?
Non, pas dans celui de Coppola, par exemple, mais après, ça, c'est un peu comme le design des dents de vampires ou comme les manières de les tuer. Mmh. T'as tellement d'interprétations différentes selon les pays, les époques, les interprétations. Tu peux pas définir. Il y a plein d'autres interprétations où les vampires disparaissent et plein d'autres où ils disparaissent pas, donc.
Ouais, c'est comme les Jedi, quoi, on comprend rien.
Ouais,
c'est ça.
Les Jedi, c'est quand même vraiment la bordel, quoi. Je veux dire. Enfin, moi, Obi-Wan qui disparaît à la fin, mais par contre, d'autres qui se font buter et qui meurent, je comprends pas, quoi.
Mais en fait, ça, j'ai l'impression que c'est surtout, pour revenir à Blade, il va tuer des tonnes de gens. On va pas montrer qu'il y aura pas des cadavres de vampires partout où il va.
Et pour le coup, c'est plutôt classe. Je veux
donc,
dire,
donc le corps disparaît, comme ça, au moins, tu laisses pas des cadavres derrière. C'est pareil quand. La scène de boîte de nuit où il tue tout le monde et il ne reste plus que le mec tout seul avec le gars brûlé. D'ailleurs, il aurait pu faire mieux que le brûlé, il aurait pu lui couper la tête, on n'en parle plus. Hein.
Ah bah, de toute façon, lui, on n'a pas parlé de ce perso insupportable, l'espèce de gros casse-couille relou.
Il se fait couper les mains au moins trois fois dans le film.
Trois fois dans le film.
Il y a même une vanne là-dessus. Quoi.
Ouais. Ah oui, ça m'a surpris cette vanne de fin. Là. Vas-y, me donne tes mains avec le méchant qui fait semblant de lui couper, qui finalement ne lui coupe pas et tout.
Mais en plus, c'est long pour la pauvre petite vanne que c'est.
Mais toutes ces blagues sont très très longues.
Bah, lui, en fait, à ce qui paraît, c'est quasiment que de l'impro. C'est-à-dire qu'à la base, il devait être.
Ça se voit.
Figure en plus, un peu. Et en fait, le réal a tellement kiffé parce que je pense qu'en fait, il le voit vraiment comme son alter ego. Je veux dire, donc il a décidé de le mettre partout.
C'est le mec qui lui trouvait de la coke alors.
Ouais, exactement ça. Ouais. Ah, il est insupportable.
Mais je suis content parce que cet acteur, ça me permet de faire un petit point Gotham. Parce que c'est Bullock dans la série Gotham.
Mais oui, c'est Bullock.
Et, oui. et on le reverra dans Ghost Rider aussi, préparé.
Mais franchement, Maxime, faut que tu fasses un épisode Patreon sur Gotham. Hein.
On fera jamais Ghost Rider parce que je veux pas que Maxime il prenne trop de plaisir.
Tu sais que je prendrai du plaisir en plus.
Je sais, donc on le fera jamais.
Aïe, caramba.
Blade récupère ses lunettes.
Ah, ça, c'est un plan qui reviendra dans les trois films, si je dis pas de conneries.
On lui pique ses lunettes et il les remet à chaque fois.
Non, ouais, mais surtout, il les remet d'une manière genre improbable où il les attrape en l'air. Enfin, dans Del Toro, il est encore plus abusé. Le plan d'attrapage de lunettes, c'est n'importe quoi, quoi.
On a un mini combat de filles, parce que c'est obligatoire, s'il y a deux personnages féminins, il faut qu'elles se battent dans le film, tu vois. C'est... parce qu'il y a la grande blonde là, qui est toujours habillée en blanc.
Ouais.
Oui.
J'étais sûr qu'il allait la tuer. En fait, j'étais sûr qu'il allait tuer ses sous-fifres. Et en fait, non. C'était juste des mini-boss, en fait, tout simplement, dans le film.
Ouais.
Je m'attendais franchement à ce... parce que tu sentais trop que Frost allait la tuer. Tu sais, le côté le grand méchant qui dit ouais, viens, on va faire mon plan et on sera tous des dieux. Et en fait, il n'y a que lui qui est dieu.
Ouais. Mmh.
Et ils n'ont rien fait avec tout ça au final. C'est juste la fille, elle tue l'autre fille.
Ah, mais cette phrase gênante d'ailleurs où t'as l'autre qui dit I'm gonna be a fucking vampire god. Et là, elle se marrait comme un gros beauf. Là, putain, elle m'a marqué. Ouais.
Par contre, ça fait plaisir que quand il s'est retrouvé face à face une dernière fois avec ce mec-là, il lui a coupé la tête en 2 secondes et on n'en parle plus.
Ah ouais, ça c'était classe. Avec un espèce de fil à beurre, là. Un fil à couper le beurre un peu, c'était cool.
Et donc, on arrive au combat de katana qui a été ajouté dans le film pour pouvoir remplacer la fin avec le démon hémoglobine.
Ouais, parce que la Madra, là, c'est le nom du méchant. En fait, à ce qui paraît, les tests audience, elle n'arrivait pas à avoir de... autant elle kiffait le personnage de Frost, mais dès qu'il se transformait, elle perdait tout intérêt dans ce personnage. Et donc ils se sont dit, bon, on va laisser Frost jusqu'au bout.
Mais il est nul ce combat de katana.
De super effets spéciaux, par contre.
Hein, il est pas. De tous les combats de katana qu'on a vus, on n'en a pas vu beaucoup.
Ce qui est con, c'est que Blade, il est. Il est trop fort. Normalement, il doit même pas s'emmerder avec un mec qui s'est jamais battu au katana et tout. Tu vois.
C'est vrai, ouais. Ouais. Judith, qu'est-ce que tu penses des combats de katana?
Bah moi ça, enfin au moment où ça commençait, je me suis dit ah cool, ça va être sympa, j'aime bien les petits duels. Enfin moi ma référence de petits duels final, on va dire avec en gros le boss des méchants dans le genre, c'est un peu Equilibrium où je suis très fan de l'espèce de duel au flingue qui est à la fin là. Enfin bon, même si il y a des côtés très cheap à ce film, mais bon globalement j'aime beaucoup cette scène. Donc là,
le
Gunkata peu...
à bout portant, ça fonctionne dans le film.
Oui, voilà. Et je me suis attendue à ça et bon finalement j'étais déçue, je me suis dit ouais bon, ça ressemble à pas grand-chose.
Tiens, bah, Equilibrium, encore un film Matrix. Hein. On peut aussi le mettre dans la catégorie. Là,
ah oui, mais c'est juste les films Matrix faits après Matrix, ça me surprend moins que les films Matrix.
Non, mais je veux dire, j'englobe toute cette partie en disant que c'est l'ère Matrix, mais elle commence pas forcément avec Matrix.
Hardcore, un des plus abusés dans le délire, c'est Cypher, où l'affiche est marquée à part le costumier de Matrix, ou avec le costumier de Matrix. Je me rappelle très bien.
En plus, Cypher, c'est le nom d'un personnage de Matrix.
Ouais, en plus, mais ça doit être le nom français, en plus, Cypher. Mais tu sentais la promo, c'était en mode on va mettre 3 gens en cuir sur la photo et dire c'est Matrix.
Parlons des CGI du sang magique quand il essaie de le couper en deux et que ça fait une sorte de blob bizarre rouge. J'ose même pas imaginer ce que le démon aurait.
Ah bah mais vous l'avez pas vu ça, l'image du démon.
Moi je l'ai regardé. Ouais.
Ah, non, moi, je l'ai lu seulement.
Ah mais mec, allez les voir. Moi ça a été.
Ça vaut le coup.
Ça a été un de mes. Franchement, ça a été parce que j'avais le DVD à l'époque et c'était un des premiers DVD où j'avais les bonus et tout. Mais ça a été une barre de rire avec mes potes quand on est tombé dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment du nanar à 200 000 km/h ce truc. C'est extraordinaire.
Bah, heureusement qu'ils ont pas fait ça parce qu'au final on aurait peut-être pas eu le 2, tu vois.
Ah ouais, non, mais c'est la tête de Frost dans la marée sanglante. c'est l'équivalent du buisson ardent de Keanu Reeves dans Bob l'éponge. Là. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est à voir.
C'est quand tu prends Carrie un peu trop littéralement.
Ah non, mais c'est génial.
Et il le tue avec le sérum.
Oui, et qui bien pense, sûr. Parce que l'autre pense que c'est un. Que c'est pas, en fait, c'est pas un sérum. Hein, c'est un
ah oui, c'est les trucs pour faire péter, pardon.
Ouais, et l'autre pense que c'est un sérum, quoi.
Et là, donc, Blades. Dit some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Et je crois que j'avais pas de micro autour de moi, mais j'avais envie de lâcher de faire tomber un micro quand j'ai.
Ah, super la punchline.
Ah putain, mais c'est la punchline quoi. Et je l'avais complètement oublié. J'ai applaudi quand il l'a sorti. Et ça, c'est tellement Blaxploitation quoi. C'est peut-être l'instant le plus Blaxploitation du film, mais c'est bien qu'il l'ait gardé pour la fin comme ça. Ils auraient pu finir le film à ce moment-là, ça m'aurait pas dérangé du tout.
On est d'accord que littéralement, cette phrase veut dire il y a toujours des enfoirés qui essayent de faire du patin à roulettes dans une montée.
Non, du patin à glace dans une montée.
C'est ça. Ouais. Et il y a un lien avec ce qui se passe dans le film ou je suis passé à côté
Non, c'est gratos.
C'est juste une phrase de badass à la Duke Nukem, quoi. Enfin, c'est vraiment une pure phrase, genre, je vais dire un truc badass qui n'a rien à voir. C'est comme. Tu sais où j'ai plus de chewing-gum là, la phrase, c'est dans quel film déjà?
Alors là mon gars, laisse ton tamouise.
Ouais bon tant pis. Et donc voilà, on arrive à la fin de Blade. Ça finit avec Blade en Russie. Mais est-ce que dans les suites
Ah mais si, avec le chewing-gum explosif.
Non, non.
C'est ça. Non, c'est pas avec un chewing-gum explosif. C'est dans quoi qu'il y a un chewing-gum explosif?
Dans James Bond.
Le mâche et la tête.
James Bond, James Bond.
James Bond, on est d'accord. C'est ça. T'as pas un podcast sur James Bond? C'est pour ça que tu étais au courant?
Ah, je sais plus. J'ai Blade Spelling qui commence,
qui va pas
qui commence aujourd'hui. Où on parle de minute par minute, un épisode par minute.
Ça existe. Hein,
mais pas des trois Blades, hein, juste du premier Blade.
Il y a un podcast qui s'appelle les minutes de la peur, où c'est minute par minute
la
cité.
Ouais, il y a la Star Wars minute aussi, bien sûr.
Putain, insupportable.
Ils ont fait tous les Star Wars minute par minute.
Insupportable.
Et vraiment, ça fait des années que ça existe maintenant et je crois qu'ils arrivent à la fin. Là.
Ah bah ouais, dire, à un moment, t'arrives.
C'est temps.
Mais ils font pas,
c'est long. Hein.
Ils te font pas une heure à chaque fois, quoi. Tu vois, ils vont te faire un petit épisode de 30 minutes.
Rien que ça,
c'est déjà bien.
Mais à un moment, ils faisaient ça tous les jours.
Ah ouais, bah j'imagine. Ouais. Hein.
Donc, et j'avais pensé faire ça avec Matrix, mais personne qui voulait me suivre. J'ai fait plein d'annonces sur Twitter et tout, en anglais, en français, il n'y a personne qui voulait le faire. J'aurais essayé au moins. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Blade?
Vas-y, Judith, honneur au nouveau. Nouvelle.
Moi, en fait, là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant et fun, c'est sur la réutilisation du mythe du vampire, où on commence à déraciner complètement le vampire de ses interprétations traditionnelles. D'habitude, déjà, on a un personnage qui est noir, ça c'est cool, c'est ultra rare, parce que le vampire qui est tiré de la littérature gothique et du romantisme noir, c'est toujours rattaché à une culture très européenne, donc là, ça va à contre-pied de tout ça, ne serait-ce que de caster un acteur noir, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et ça va aussi avec le fait qu'on exploite le vampire en le dépossédant un peu de tout ce qu'il y a d'horrifique. Enfin, c'est-à-dire, voilà, à partir du moment où on abandonne l'aspect gothique, là, on a un vampire d'action. Et j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça vraiment fun. Au départ, je me suis bien éclatée. Après, voilà, comme je le disais, hein, ça ne suffit pas pour moi à faire vraiment un bon film. Je trouve qu'on tombe trop, trop vite dans le jeu vidéo clippé un peu cheap pour moi, surtout dans la deuxième partie du film. Mais première partie, je me suis bien éclatée.
Ouais, la première partie, elle est cool. Franchement, j'étais bien dans le film. J'étais là, je fais, ça a pas trop vieilli, c'est bien, ça a des trucs que j'ai pas vu ailleurs. Et ensuite, ça part en blockbuster. Et c'est dommage, mais en même temps, c'est obligatoire. C'est un film de Wesley Snipes qui casse des gueules, donc forcément, ça allait partir en blockbuster. Et ça offre pas un très 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 bon blockbuster en plus. Mais je retiens quand même cette première moitié du film qui m'en a mis plein les yeux. Et j'étais comme tu le dis, c'est très fun. En plus, c'est un personnage qui est très intéressant à suivre, même s'il est assez taiseux comme ça, qui dit rien, mais dès qu'il parle, c'est pour dire un truc, une punchline ou un truc intéressant. Et ouais, j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que ce sera plus, c'est plus abouti. Et puis bon, bah, c'est Del Toro, donc il y aura un peu plus il y aura plus sa patte parce que bon, le réalisateur, là, on a vu deux de ses films. Je ne peux pas dire que ce soit un très grand réalisateur. Zoltan, tu vas peut-être me contredire et tu vas me dire qu'elle est bonne chose, j'imagine. Mais...
non, mais en termes de réal, je trouve qu'il a le mérite. Ça fait partie de ces mecs, au moins. Tu sens une patte, ou en tout cas une vision de
quelque chose. Une envie.
Ouais, je dis des trucs débiles, mais je pense la séquence où tu as... je pense que c'est le mec qui a un nom de dragon, là.
Dragonite, non, ça, ouais, c'est un Pokémon. Ça, c'est
ouais,
un Pokémon.
C'est pas un bon bref. Lui, quoi.
Gitano Dragonetti.
Ouais, Dragonetti, là, voilà. Non, mais tu sais, qui marche et qui arrive dans les archives, là, et t'as l'espèce de trois travelling qui s'enchaînent où à chaque fois qu'il passe devant un truc, ça passe à une valeur différente, et comme ça te montre juste la bague qui lui appartient à la sec. Enfin, tu sens que le mec a quand même une conception de sa mise en scène assez. À travailler visuel. Après, en effet, il tombe dans des travers de l'époque.
C'est le montage aussi. Hein.
Qui est le montage un peu épileptique. Ouais. On est dans un côté un peu clipesque qui était malheureusement très courant dans ces années-là. Mais dans les films de super-héros, je trouve en tout cas qu'il a réussi il iconise son personnage. C'est pas rien. Il fait des scènes d'action plutôt lisibles et plutôt cool. Et tout fonctionne, quoi. Donc il a pas une patte plus marquée que ça, mais en tout cas ce qu'il fait, il le fait plutôt correctement, quoi.
Et personne n'a dit que Wesley Snipes porte ce film aussi, quand même.
Bah si, ah, ça, en parler, son côté monolithique, il est vraiment génial. Et puis tu sens qu'il aime le personnage et il l'incarne à sa manière, mais il l'incarne bien. Et c'est marrant parce que si je me trompe pas, il y avait eu Spawn un ou deux ans avant, et il y avait aussi eu Punisher, et au niveau des adaptations de super-héros, on était vraiment au fond du panier. Et au final, ce film-là a permis à ce genre-là de survivre jusqu'au début des années 2000 et avec tout ce qu'on a eu après, quoi, parce que ça se cassait vraiment la tronche fin des années 90 avec les films dont on a parlé de Schumacher et tout ça. Et ouais, non, Wesley Snipes, sans lui, je pense que le film, il vaut pas grand-chose, quoi, hormis les 30 premières minutes. Et ce qui est cool aussi, c'est moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le mélange des genres. T'as du fantastique, t'as de l'art martiaux, t'as de l'action, t'as aussi un peu ce côté super-héros. Et il y en a un peu pour tous les goûts, peut-être un peu trop, mais je trouve qu'il pose bien les bases pour le deuxième film, justement, même s'il s'en sert pas forcément, mais il pose bien les bases du truc, je trouve.
Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup comment il introduit, comment il nous introduit cet univers, quoi.
Exactement.
C'est très très harmonieux, il y a un côté très fluide. Tu vois, tu t'es tout de suite plongé dans ce postulat avec ces vampires qui font des soirées privées. Et ça, avec le chasseur de vampires qui est Blade, son histoire, elle t'est dissimulée, enfin, elle est décimée un peu, diluée dans le film et tout. Et c'est vraiment, c'est pas si courant que ça qu'on fasse des films. En fait, encore une fois, on les fait plus, ces films-là, quoi. De dire, on prend un héros, on va raconter une histoire de ce héros en t'expliquant le héros quand même. Et j'aime bien cette formule, elle marche très bien, je trouve.
Une formule in media res, comme on dit.
In media res, ça veut dire quoi?
C'est en anglais, ils disent ça. Ouais. In medias res, pardon.
On le dit en français aussi. Hein.
On le dit en français aussi, ouais. Oui, parce que je l'ai jamais lu en français, donc c'est pour ça.
C'est-à-dire? Attends, j'ai pas compris.
Tu commences directement dans l'action.
Tu commences dans l'action, voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas forcément ça, mais tu commences avec un personnage qui est déjà développé, là, en l'occurrence.
Mais tu te prends le temps de lui créer quand même une origine et de comprendre d'où il vient. Et, enfin, franchement, ça fonctionne bien.
Ouais. Ok.
Et bon, peut-être c'est trop rire. Donc, dans le design, il y a ces fameux tatouages. Bon, ils sont très bien. Mais il y a surtout sa coupe de cheveux.
Ouais.
Avec un espèce de motif sur le côté de la tête, là. Et ce qui me fait rire, c'est que dans les bonus du Blu-ray, là, il y a un interview donc, du gars qui a fait toute la déco du film, enfin, toute la conception. Il dit et là, pour les cheveux, le réalisateur, en fait, il s'est manipulé un logiciel qui s'appelle Photoshop et il nous a envoyé une photo de la tête de Wesley Snipes avec des motifs sur les cheveux. Et c'est ça, enfin, on a eu l'idée de faire ça et je me suis dit, ah, putain, on est dans une autre époque. Là. Le moment où il dit un logiciel qui s'appelle Photoshop. Genre, le réel, il savait faire du Photoshop en 98. Waouh!
Bah, tu verras dans Buffy, il y a une scène magnifique où Willow, elle sort son ordinateur et elle fait « Attends, je vais aller sur Google. » Et là, elle dit « C'est quoi Google ? C'est un site de recherche. » Et à chaque fois que je vois cette scène, je fais « Putain, je suis vieux.
» Encore, elle aurait pu être sur des causes, tu vois.
Ouais, mais c'est marrant, Google, c'est peut-être je crois que c'est la première fois que Google a été cité dans une série ou dans un film, c'est dans Buffy. Ouais.
Ah ouais.
Voilà, on a commencé en parlant de Buffy, on terminera donc en parlant de Buffy. Judith, on peut te retrouver où ? Sur Twitter, YouTube et compagnie ?
Alors, bah, essentiellement sur ma chaîne YouTube, du coup, qui s'appelle Demoiselle d'Horreur, et sous le même nom sur Twitter, Facebook et Instagram.
T'as fait quoi comme vidéo dernièrement ?
Ma dernière vidéo, c'était sur le personnage de. Donc, parce que je fais des analyses de personnages féminins dans les films d'horreur, et donc ma dernière, c'était sur Catwoman, dans Batman le Défi.
Ah, bah, ça tombe bien.
Eh oui, mais on en a parlé.
Mais oui, en plus, c'est notre Catwoman préférée hein, quand on avait voté. Ouais, oui, c'est notre Catwoman. Désolé, Anna Tawai. On parle pas d'Halle Berry.
Non, on parle d'Halle Berry.
Zoltan, toi, tu fais pas de vidéo en ce moment ?
Non, là, je suis en mode. Je suis trop plongé dans Hyrule pour faire des vidéos.
En pré-retraite, il est en pré-retraite.
Exactement.
Vous pouvez nous suivre sur Twitter, MCU DC Pod, sur Facebook, comme d'habitude. Et sur Patreon, on a fait donc la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, notre dernier épisode. Et là, on va continuer. Ça va se jouer entre The Mask. Et Avengers versus Justice League où on va faire un petit fantasy football mais avec des personnages de super-héros et ça pourrait être marrant. Donc n'hésitez pas à venir voter sur le Patreon non plus. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour Blade 2 de Guillermo del Toro, la première fois qu'on va parler de del Toro.
Ouais.
Cool, ça pourrait être marrant. Et voilà. À la semaine prochaine tout le monde.
Salut.
Ciao.
Salut.
Thank you.